Et salut à tout le monde, on est de retour en live avec Tino pour un méga live aujourd'hui autour des marchés financiers, des cryptos, mais pas que, puisqu'on va parler aussi des marchés traditionnels et voir un peu ce qui est en train de se passer en ce moment, notamment sur les indices comme le S&P 500 et tout ce qui, ces jours-ci, nous a offert de nouveaux points hauts, puisque les marchés sont de nouveau sur des points hauts après un V-bottom d'anthologie d'ailleurs, hein, auquel beaucoup ne croyaient pas, et finalement c'est ce qui s'est passé. Donc Tino, déjà ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu en live justement, et c'est toujours un grand plaisir de t'avoir, c'est vraiment cool. Je t'ai envoyé un message à un ou deux jours, tu m'as dit je suis disponible immédiatement, donc allons-y. En ce moment on fait beaucoup d'émissions et c'est plutôt cool. Donc déjà, content de t'avoir parmi nous. On a ce petit chart du Bitcoin qui est affiché à l'écran et on va rentrer immédiatement dans le dur. On va pas tourner autour du pot. On va essayer de vous donner un peu notre sentiment du moment. Est-ce qu'on peut aller encore gratter quelques pourcents ou dizaines de pourcents sur le marché crypto? Quelles sont les opportunités du côté de certains altcoins et même parfois des dinocoins, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis des années et des années. On a l'impression qu'ils sont complètement morts et à plat. Mais d'un coup, parfois, il y a des multiples qui rentrent. Donc ça, je sais que tu le surveilles aussi pas mal pour voir tes publications du côté de Twitter. Donc Tino, super content de t'avoir. Que dire de plus? Je te laisse la parole et n'hésite pas à embrayer sur ce que tu souhaites et notamment ton sentiment vis-à-vis de Bitcoin, puisque je pense que au quotidien, je donne déjà assez de la voix sur la chaîne.
Écoute, merci, bonjour à tous, merci pour cette nouvelle invitation, très heureux aussi de te revoir, de vous revoir. Effectivement, on a eu un premier semestre 2025 pour le moins agité sur le marché tradi des actions, parce que moi je suis avant tout un trader action. Donc effectivement, on a eu une actualité extrêmement chaude sur différents angles. On pourra éventuellement en parler aussi, parce que l'économie et l'actualité fait que ça aide aussi beaucoup à les marchés à bouger. Évidemment, Donald Trump n'y est pas étranger, même pour les cryptos d'ailleurs. Il y a pas mal de news qui sont sorties ces dernières heures qui font que ça va dans le sens, pour moi, de la continuité haussière sur le Bitcoin, et je dirais même sur l'ensemble du marché des cryptos. Donc ça, c'est plutôt positif. Il y a une actualité également, bien sûr, géopolitique avec les conflits, etc. Il y a une actualité franco-française également avec politico-française, on va dire, avec un certain nombre d'annonces suite à des craintes modérément mesuré, je dirais, des risques pour l'économie française et tout simplement le pays. Donc voilà, il y a beaucoup d'actualités, effectivement, et malgré l'actualité, malgré les craintes, etc., il y a une expression que j'adore qui est celle-ci, c'est le marché monte devant un mur de craintes. Et effectivement, ça résume bien le premier semestre, c'est un mur de craintes sur lequel les marchés sont montés, les marchés traditionnels, mais également, bien sûr, les marchés crypto. On peut se projeter, on peut avoir effectivement des scénarios et on pourra, si tu veux, en parler, hein, y a pas de problème, pour la suite sur le marché crypto, mais également sur le marché tradi. Mais effectivement, pour le moment, on a ce qui est intéressant, si on zoome un peu maintenant sur le marché crypto, c'est qu'on a eu, comme souvent d'ailleurs par le passé, on a d'abord le train Bitcoin, pardon, la locomotive Bitcoin qui prend un peu les devants. Et puis derrière, tous ceux qui disent ben, finalement il n'y a que le Bitcoin, etc. Ben, en général, quand tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a plus que le Bitcoin, ben, c'est là où effectivement on a les alts qui enfin se réveillent, portés par une de mes chouchoutes XRP, tu le sais. Ethereum aussi, bien sûr. Et puis, effectivement, alors, c'est un petit peu la surprise ces derniers jours. Je suis assez content pour ça. C'est qu'effectivement, on a les dinosaures qui se réveillent un petit peu et qui, très rapidement, bon, elles sont tellement parties à la cave, il faut dire que y a de la place pour monter, mais on a quelques dinosaures qui se réveillent. Voilà, donc c'est assez marrant de les observer et de voir qu'elles se réveillent, mais elles se réveillent pas à n'importe quel moment. Il y a eu quand même pour moi des constructions très longues, très avec des grosses réductions de volatilité qui font qu'à un moment donné, il faut bien que ça sorte par quelque part. Et quand ça sort par le haut avec de l'actualité, bah, vous avez beau dire que vos projets sont morts, etc., ce qui est potentiellement vrai pour la plupart, je veux bien le croire. Malgré tout, quand la spéculation décide de s'en emparer. Ben, vos projets, ils peuvent effectivement être multipliés par 2, par 3, par 4. Voilà, donc en gros, au-delà, comme d'habitude, je sais que c'est pareil pour les actions, c'est toujours pareil, il y a toujours cette bataille, cette lutte entre l'analyse technique et le fondamental. Moi, je pense qu'il ne faut pas les dissocier, même pour les projets, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la seule chose qui fait monter vos actifs, c'est la demande. Et la demande, ben, des fois, c'est de la demande suite à un élément fondamental, mais des fois, c'est de la spéculation. Donc, voilà, c'est toujours cette bataille entre offre et demande qui fait que ben, vos actifs montent ou baissent. Donc, c'est ce qu'on surveille de près. Effectivement, il y a des choses à faire ces derniers jours.
Et en parlant de demande, Coinbase, qui est en train de se hisser dans le top 50 à nouveau au niveau des apps, il était 300-400 à peine 2 semaines en arrière au niveau du classement général des applications côté États-Unis. Et côté finance, il est top 5 désormais, si on prend en considération tout le domaine. Robinhood était à la 75e place hier et top 3 finance. Donc, que ça soit du côté de Robinhood ou de Coinbase, on a vraiment une accélération qui est assez folle au niveau des entrants, des personnes qui téléchargent l'application directement. Et ça, c'est un truc aussi à surveiller, puisque à partir du moment où on va arriver plus ou moins dans le top 10 général, eh bien, souvent, ça a déclenché derrière des momentum de prise de profit assez marqués. Donc, est-ce que cette fois sera différente? Ça aussi, c'est un truc en ce moment. C'est, je pense que du côté de la bourse traditionnelle aussi, avec le recul, t'en as vu passer un nombre incalculable de fois. Dès que le marché crypto a tendance à s'emballer, on voit paraître des théories, tu sais, de super cycle, que les institutionnels sont là, qu'il n'y aura plus jamais de bear market, qu'il n'y aura plus jamais de moins 30, moins 50%, etc. Or, on l'a vu ces dernières années, même sans vouloir se faire l'avocat du diable ou quoi que ce soit, peut-être qu'un jour, en effet, on aura un cycle de plateau sur Bitcoin et de la volatilité qui ne sera plus à des moins 50 ou moins 70 comme on l'a eu par le passé. Mais quand on regarde ce qui s'est passé notamment en 2022 sur des Nvidia, des Meta, Facebook, des Netflix, Tesla, enfin toute la compagnie qui s'était pris des moins 75, moins 80%, c'était à peine il y a 3 ans, sur des super capitalisations. Pourquoi aujourd'hui le marché crypto qui pèse tout juste, ça peut paraître déjà costaud, mais dans l'océan de la finance, c'est petit, 4000 milliards dans son intégralité, ne pourrait pas encore à aujourd'hui bouger en effet de dizaines de pourcents en négatif lors d'un marché baissier, peu importe qu'il y ait des institutions ou non. On l'a vu à partir de décembre 2024 jusqu'à cette déroute un peu des tarifs de douane de Trump autour de mi-avril, début avril 2025. Eh bien, on a eu, même du côté des ETF, des sorties du côté de Bitcoin qui étaient monstrueuses à la hauteur de ce qui était rentré précédemment. Donc, le laïus de dire « cette fois sera différente, les institutions vont nous sauver et détenir leur position pour toujours », voilà, je mets ça de côté, mais je pense que toi aussi, tu as le même avis quelque part pour la bourse traditionnelle. Ça fait partie des dictons un peu antinomiques de l'investisseur avisé de se dire que bah, il n'y aura jamais de baisse importante. Et on l'a vu même au niveau des indices au moment justement de ces tarifs de douane.
Le phénomène de V-Bottom dont tu as parlé est un phénomène. J'en parlais moi à la fin de l'année dernière dans une interview que j'avais faite chez Vidéo Bourse, un collègue. Le V-Bottom, c'est quelque chose qu'on va voir pour moi de plus en plus régulièrement arriver. Pourquoi? Parce que effectivement, tu as raison, les ETF sur le marché tradit, et ils arrivent aussi sur le marché des cryptos, ont un avantage, c'est qu'en effet, quand tout va bien, bah, tu as cette espèce de pyramide de Ponzi où tout le monde va, et effectivement, bah, la hausse entraîne la hausse, etc. etc. Donc, tu as des afflux massifs. La problématique, c'est toujours la même, c'est que tu as une hyper concentration. Tu le vois sur le marché tradi avec, tu en as parlé aussi des 7 magnifiques, les Nvidia et compagnie. Ben aujourd'hui, les 7 magnifiques représentent plus de 40% à peu près 40% du S&P 500, 7 actions. Donc, si tu veux, l'avantage, c'est qu'effectivement, cette hyper concentration fait que tu as de la performance. Ça, c'est totalement vrai. Et c'est ce qui a fait, pour moi, la surperformance des marchés américains ces 10 dernières années par rapport à tout le reste auparavant. La légère surperformance par rapport à la moyenne, elle a été réalisée pour moi essentiellement grâce, effectivement, au flux ETF. Par contre, la problématique, c'est que si tout le monde détient les mêmes actions, le jour où tout le monde veut s'en débarrasser, qui c'est qui achète? Il n'y a plus personne en face. Et donc, c'est pour ça que tu as ces creux qui sont également très importants. Tu as ces V-bottoms qui se créent. Ça, c'est quelque chose quand même. Alors, ça a existé par le passé, bien entendu. Mais tu vois, par rapport à des marchés comme sur le marché tradi, comme 2000 ou comme 2008, tu as eu des grands marchés baissiers. Des grands marchés baissiers, tout est relatif. C'était des marchés baissiers de 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça, c'est pas arrivé, tu vois. En 2020, avec le Covid, c'est pas du tout arrivé. Le marché baissier, il a duré 1 mois et demi, je crois, même pas. Et là, le marché baissier d'avril, il a duré 15 jours. Pourtant, le delta, il a été très important quand même, puisque tu as eu une baisse de plus de 20% sur les indices américains. Donc, ce phénomène-là, si tu veux, ce phénomène d'élasticité, pour moi, il va encore perdurer et c'est des choses qu'on verra très régulièrement. Et d'ailleurs, tu vois, un mec, par exemple, comme un grand investisseur comme Warren Buffett, par exemple, qui a beaucoup accumulé par le passé dans des marchés baissiers, il a eu le temps, tu vois, c'est quelqu'un qui prenait beaucoup le temps d'étudier les fondamentaux, etc., etc. Ben, je suis persuadé que dans un marché comme ça avec des V-bottom, il serait beaucoup plus en difficulté. D'ailleurs, la baisse de 2020, Warren Buffett avait pas eu le temps d'acheter grand chose. Voilà, il avait pas eu le temps d'arbitrer énormément. Donc tout ça pour dire que il y aura toujours des baisses. Voilà, le marché structurellement est fait pour ça, mais effectivement, la vélocité de ces baisses et surtout la rapidité des rebonds, ça, c'est effectivement quelque chose qui peut être assez nouveau et surtout qui va se reproduire, je pense, dans le futur. Ouais.
Bah, on peut dire que d'ailleurs depuis 2020, et je suppose que c'est consécutif à toute cette impression monétaire qu'il y a eu, on a des effets de marée comme ça qui sont de plus en plus importants. Et une fois, j'en discutais avec un gestionnaire justement de banque privée et tout ça, qui disait que même au niveau de leurs écarts, tu vois, de volatilité, ils étaient déjà sortis des modèles ces 2-3 dernières années. Et ça me faisait penser à un film, je sais jamais lequel c'est au niveau des titres, où justement, ça commence comme ça, tu sais, avant que tout explose au niveau du système financier, où ils se rendent compte que ça fait 15 jours qu'ils sont hors des écarts de volatilité par rapport à leur modèle, et ça remet tout en question. Alors aujourd'hui, j'ai la sensation, notamment depuis 2008, que quand même ils ont appris un tout petit peu mieux à gérer leurs algos et à gérer les écarts. Mais comme tu disais, je pense qu'il y a beaucoup d'anciens spéculateurs qui n'ont pas mis à jour leur logiciel depuis 2020. Et on voit que les marchés, eux, ont leur propre logiciel désormais. Et je pense qu'au terme, en plus, si on a l'IA et tout ça qui continue à se développer très vite, ça sera à la fin des prises de décision qui seront beaucoup plus rationnelles quelque part que ce que peut l'être parfois l'irrationalité humaine en termes de psychologie pure. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, tu vois, dans les 5, 10, 20 ans qui viennent, la bourse en tant que telle. Je suppose que les comportements continueront de persister malgré tout, tant qu'il restera des êtres humains et que ça ne sera pas que des machines derrière. Mais force est de constater que depuis 5 ans, le comportement est vachement différent. Et comme tu dis, on ne laisse plus rentrer les gens longtemps dans le train. On ne leur laisse pas le temps de se remettre à plat. C'est soit tu rentres interrupteur on-off, soit tu regardes décoller la fusée derrière. Et je pense que ça pose pas mal de problèmes aux personnes qui ont appris justement sur des dizaines d'années à investir et spéculer quand on est complètement à plat, quand il n'y a plus aucun bruit, quand le VIX est très 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 bas. Enfin voilà, ce genre de choses poussent dans le sens d'une accumulation, comme dirait Tradosor, rationnelle quelque part.
La préparation avant se faisait dans les marchés baissés, c'est-à-dire que tu voyais que le marché était en train de baisser, tu te mettais devant ton ordinateur pendant des jours, des semaines, tu préparais tes analyses, tu regardais les valorisations, tu regardais le cycle économique, tout ça, et puis potentiellement, quelques jours ou quelques semaines après, tu achetais. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, tu te prépares quand les marchés montent. Donc, les marchés montent, tu te dis, là, c'est trop haut, c'est trop cher potentiellement si tu veux faire du fondamental et investir à long terme. Et tu te dis, si on a à un moment donné un retour, voire même tu places tes ordres en amont, tu vois, et si on revient dans ce niveau-là, à ce moment-là, j'achète. Et donc, c'est une perspective très, très différente. Et tu vois, paradoxalement, sur certains les seuls actifs où on a vu des vrais marchés baissiers ces dernières années, c'est sur les crypto-monnaies.
Ouais, puis hier, je lisais une info là, c'était assez surprenant. Nous, dans la crypto en général, on a pas mal de mal à aller faire une prise un peu comme un pas de côté, tu vois, pour essayer de voir comment se comporte le marché crypto par rapport à d'autres benchmarks. Et rien que pour comparer les altcoins face à Bitcoin, 99% des gens ne le font même pas, alors que c'est véritablement ce qui devrait driver, tu vois, la thèse d'investissement derrière. Et donc hier, je lisais, j'essaie de retrouver le tweet, il ne doit pas être très loin, voilà, c'était Econometrix. Il disait que le Bitcoin a été moins volatile que Nvidia depuis 3 ans. Nvidia a offert plus de volatilité et peut-être même de performance à vérifier, je ne veux pas dire de bêtises, que le Bitcoin sur 3 ans roulant. Alors que le Bitcoin lui-même, si jamais on finit autour de 150 000, on n'en est plus très loin, il aura quand même fait un x10 de son point bas, qui est énorme en termes de paris spéculatifs. Là, aujourd'hui, tu te dis, OK, si j'avais du Nvidia, au final, j'avais une volatilité qui était supérieure à Bitcoin. Et ça, c'est des petits trucs, tu vois, auxquels on ne pense pas forcément à aller faire de la comparaison. Des fois, je vois aussi passer des charts Bitcoin contre le gold. Je trouve ça aussi très, très intéressant, d'autant plus que le gold s'est pas mal apprécié ces derniers trimestres. Mais bon, c'est des moments où tu te dis qu'en effet, on est tellement focus, nous, dans la crypto, c'est tellement viscéral comme marché. Et c'est un peu ce que je disais hier pour répondre à une personne qui m'avait dit « Oh, tu deviens barbant quand tu nous dis de prendre des profits et tout ça. » Mais l'investissement devrait être barbant. Ça devrait pas être quelque chose de méga excitant, comme si on rentrait au casino pour parier nos 50 ou nos 500 balles. Et c'est un truc qu'on fait tous au début, même quand après, avec l'expérience, le temps, le capital, on a toujours des petites poches de liquidité pour essayer de se donner un petit frisson sur certains trucs. Mais globalement, je pense que à terme, sur la teneur des années, l'investissement ne devrait pas être excitant ni exaltant et quelque chose de très terre à terre, d'assez froid et d'assez mathématique et pragmatique, si je puis dire.
Oui, non, mais tu as raison. Mais tu sais, le défaut qu'on voit pour les 100% crypto est le même que l'on voit pour les 100% actions. C'est-à-dire que les gens qui ne s'intéressent uniquement à l'investissement sur actions voient le marché crypto comme un marché qui est inutile, tu vois. Et ils ont tort parce que, au contraire, je pense qu'il est très corrélé aussi à la bourse et dépendant. Et à l'inverse, je pense qu'aussi les personnes qui font que des cryptos ont un peu ce mépris sur le marché traditionnel, pour certains, pas tous évidemment. Et pour autant, on voit des choses qui sont pour moi quand même en lien. Tu vois, par exemple, il y a un graphe sur lequel je suis tombé, qui est pas évidemment pas de moi, qui est de Crypto Rover. Je sais pas si tu le suis aux États-Unis, il prend mal. Et tu vois, il montrait des similarités, si tu veux, entre, sur le graphique de gauche, entre les petites capitalisations américaines qui sont normalement un petit peu plus spéculatives que le S&P 500, et donc il montrait la comparaison entre les deux, et il faisait le parallèle entre Ethereum et Bitcoin. Et en fait, je pense que le marché, mais certainement je dis une énorme bêtise, c'est pas grave, ce sera pas la première ni la dernière, mais je pense que le marché crypto va se mettre petit à petit et est en train petit à petit de ressembler finalement au marché action. Et il va y avoir des similarités et il est possible aussi que la baisse de la volatilité du Bitcoin continue. continue. Alors ça va pas faire plaisir peut-être à beaucoup de personnes qui aiment le Bitcoin, mais est-ce que ce serait pas finalement une bonne chose que la volatilité du Bitcoin se réduise pour qu'il soit pleinement adopté, en fait, par la plupart des gens? Donc, c'est tout le paradoxe, c'est ce qui a fait le succès du Bitcoin avec de la volatilité, avec des gros écarts, etc. Eh bien, potentiellement, il faudrait que ça s'arrête pour que, ou que ça ralentisse, que ça continue de ralentir pour que finalement, ce soit adopté par tout le monde, quoi.
Bah, je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est un des enjeux et des sujets majeurs, notamment, on l'a vu là aussi récemment, depuis l'arrivée des ETF spot Bitcoin, on a le self-custody, ça aussi je crois que je l'avais partagé hier sur un tweet, qui est en recul assez majeur, et donc en fait, si tu regardes en termes de priorité des utilisateurs, je pense que c'est dans cet ordre-là, c'est simplicité, sécurité en ligne et sécurité à la personne, parce qu'on l'a vu malheureusement ces dernières années en crypto, il y a eu quelques affaires assez dramatiques. Et ensuite, en bout de chaîne, la souveraineté, c'est-à-dire détenir ses actifs, ses clés privées. Et c'est quelque chose qui, pour nous, en Europe, n'est pas une question de survie ou une question, en tout cas pour l'instant, on touche du bois, de se préserver d'un État qui serait qui aurait la vue sur absolument tout, etc., et dans lequel on ne pourrait rien faire du tout. Donc, aujourd'hui, pour les utilisateurs européens, c'est clair que, ou même les utilisateurs aux États-Unis ou que sais-je, il va y avoir une problématique, tu vois, où on est plutôt sur un schéma... simplicité, sécurité avant souveraineté au niveau de la détention des cryptos. C'est pas forcément la bonne chose à faire, puisque nous, on ne pourra que vous conseiller tout le temps d'être votre propre détenteur de crypto avec vos clés privées et tout ce qui va bien. Mais je sais aussi, au bout de quelques années d'expérience et au travers d'ECM, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour, et notamment au contact du public, qu'il y a beaucoup de gens qui sont tétanisés à l'idée d'utiliser justement que ça soit une ledger ou peu importe. On dit souvent ledger parce que c'est celui qui parle le plus à tout le monde, mais j'en avais totalement pris conscience en 2022 lors de la déroute de FTX. Je m'étais dit, on avait fait des lives, on avait fait des Twitter Space et tout, comment ça se fait qu'il y a 90% des gens qui aujourd'hui, en étant dans la crypto, préfèrent laisser tous leurs sous sur FTX et tout perdre? C'est ce qui est arrivé pour tout un ensemble assez conséquent de personnes en 2022, au risque justement de tout perdre. Et en fait, il y avait des gens qui l'expliquaient très bien sur ces fameux lives, qui disaient « Moi, la Ledger, elle est posée sur mon bureau, je l'ai depuis 1 an, 2 ans, etc. Je sais me servir d'un ordi, je saurais potentiellement me servir de la Ledger, mais le risque que ça comporte de faire une mauvaise transaction, d'envoyer vers une mauvaise adresse, de me faire pirater pour X ou Y raison, ou de signer un mauvais truc, ou d'avoir un bug dans l'interface. » Enfin, il y avait un nombre de faits, tu vois, d'excuses quelque part qui étaient assez inimaginables. Ben, les gens, ils préféraient tout laisser sur Binance ou sur FTX ou sur Coinbase. Pour eux, ça représentait le moindre mal par rapport au fait, en effet, de passer le pas et de devenir tout à fait souverain sur leurs fonds. Donc, je pense qu'à aujourd'hui, ça n'a guère évolué. Et dès qu'on a pu proposer au grand public via les ETF la possibilité d'aller se réfugier, entre guillemets, derrière une banque, ben, on voit qu'immédiatement, on a un gros recul au niveau du self-custody. Donc, ça n'est pas anecdotique. Je pense que ça sera un gros sujet à adresser pour la suite. Ils ont toujours la possibilité, même en self-custody, de continuer à aller vers l'utilisateur pour que plus tard, ça soit le plus transparent possible et qu'il y ait de moins en moins de risques, et en ligne et physique. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un des enjeux et des sujets majeurs. Et en témoigne la réussite absolue de ces ETF. On n'a jamais vu d'histoire de finance aux États-Unis un tel départ, une telle vélocité. C'est une courbe absolument droite, hein, en seulement un an et demi de temps. C'est assez dingue quand on y pense.
Et Trump veut passer une loi, tu as vu, pour que le système des retraites aussi aux États-Unis soit aussi alloué sur ces ETF-là. Donc ça, quand on connaît le système par répartition aux États-Unis des retraites, ça ne peut que aider pour moi ce marché-là, hein, clairement, si ça passe. Ça, ce serait pour moi une énorme news.
Oui, bah en ce moment, on est gâté niveau news, puisque bah, on a vu ces jours-ci justement le Genius Act avec la signature qui s'est faite hier pendant la nuit, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, maintenant, on a un cadre réglementaire et c'est pareil, c'est là où c'est complètement fou la crypto. J'y pensais il y a quelques jours, j'étais en train d'essayer de me remettre dans le mood dans lequel on était en 2022. T'as Terra UST qui saute avec le fameux rendement à 20%, là, c'était le truc à la mode à cette époque. T'as FTX qui saute derrière, t'as Ether qui passe de 5000 balles à 800-900 balles. Et je crois que c'était 14 ou 16 semaines de baisse consécutive sur Ether. On n'avait jamais vu ça, même lors de la volatilité de son introduction. Donc, c'est un truc que tu vois quasiment jamais, si ce n'est un actif qui va aller à zéro, tu vois. Donc, à cette époque, je peux te dire qu'on ne la ramenait pas large. C'était des liquidations sans fin du côté de la DeFi et de toutes les plateformes. Et 2022, en plus, on a tendance à l'oublier, au-delà de cette déroute qui a sorti énormément de particuliers et d'utilisateurs, malheureusement. On avait les États-Unis qui, au travers de la SEC et du cadre réglementaire, étaient en train d'attaquer frontalement l'industrie crypto, à fermer des banques, à mettre tous les quatre matins au tribunal Coinbase, Kraken et tout ce qui allait bien. Ils n'avaient aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Donc, on est passé dans 2022 en mode c'est la guerre ouverte envers les cryptos aux États-Unis à un 2025, seulement 3 ans plus tard, où on fait l'inverse opposé et où on a un Donald Trump qui, pour le coup, j'avais des doutes pendant sa campagne, sans rentrer dans les considérations politiques, mais un jusqu'au boutiste quand il disait vouloir faire des États-Unis la capitale crypto. On est tout à fait dans un mood où si ça doit se faire et devenir le truc à la mode, un peu comme l'IA, et le truc dont vont se servir les gens un jour, parce que c'est pas que de la mode, hein, c'est pas qu'un effet de mode, sinon Bitcoin 15 ans plus tard ne serait pas là où il en est. Mais voilà, les États-Unis préféreront toujours, en tout cas sous une ère Donald Trump, être les premiers que être ceux qui ont loupé le train, un peu comme on est en train de faire en Europe, nous, en mettant des règles partout, en voulant ne rien avancer, ne rien faire, si ce n'est que mettre de la réglementation qui malheureusement ben, coupe complètement l'herbe sous le pied à l'innovation. Et donc, on en est là aujourd'hui avec, en effet, comme tu le disais en plus tout à l'heure, maintenant, on va se prendre 15-20% de tarifs de douane sur l'Europe. Donc, ça va peut-être, remarque, initier le rebond du dollar et un peu la baisse de l'euro, mais c'est un peu trop tôt pour le dire.
D'ailleurs, c'est pas l'Allemagne qui avait acheté beaucoup de Bitcoin et qui les a vendus aux alentours des 50 000 dollars.
Si, en fait, ils avaient une deadline parce que je crois que c'était des Bitcoins administratifs, tu vois, saisis et ils étaient obligés de le vendre avant telle date. Et il y a eu la Bulgarie également en 2017 qui a vendu 200 et quelques mille. Ça aussi, c'était passé sur Twitter il y a quelques jours, peut-être 48 heures, tout va si vite en ce moment. Mais la Bulgarie, ça représentait 25 ou 27 milliards s'ils ne l'avaient pas vendu à aujourd'hui. Ça leur permettait de rembourser l'intégralité de leurs dettes.
Incroyable. Et en parallèle, c'était le Salvador aussi qui en avait pris, qui en ont toujours, je crois.
Oui, le Salvador en ont toujours. J'ai plus la somme en tête, mais pareil, ils ont des gains non réalisés assez conséquents. Et bien entendu, en tête de file, hein, Stratégie, anciennement MicroStrategy de Michael Saylor, qui aujourd'hui doit avoir aussi des milliards, si ce n'est pas des dizaines de milliards en profits non réalisés. Mmh. Et le but pour lui, en tout cas jusqu'ici, c'est de ne rien vendre. Donc ça aussi, bon, je suppose que pour MicroStrategy, le prochain hiver crypto pourra pas trop mal se passer parce qu'il a un prix de revient relativement safe et que les échéances, surtout au travers du temps, notamment des notes convertibles, vont à très loin. Par contre, tous ceux qui sont en train, là, qui ont vu de la lumière, de se convertir en Bitcoin Treasury Company, notamment des sociétés en perte de vitesse, ou maintenant on a même des Ethereum Treasury Company, ceux-là, tu vois, quand on va perdre, je pense, du moins 50% et plus, ça risque de coincer un petit peu, tu vois, si c'est les derniers entrants qui ont acheté des Bitcoins entre 100 et 120 ou des Ethers là sur les prix de maintenant. Donc, je ne sais pas ce que ça peut donner, tu vois, le prochain bear market. Autant peut-être ceux qui disent qu'il n'y aura plus des gros drawdowns ont raison. Et on croise tous les doigts pour ça, pour avoir le bear market le moins traumatisant possible à chaque fois. Autant on a tendance à édulcorer la réalité, puisque nos cerveaux, bien évidemment, sont câblés pour ne pas avoir envie de souffrir ou de voir les choses dramatiques en face et sur les marchés. On sait à quel point, des fois, on peut se faire malmener.
Ouais, moi, je pas d'avis particulier. Je vois pas pourquoi on aurait un marché qui monte en ligne droite jusqu'à vitam aeternam. Pour moi, le marché, naturellement, est fait de creux et de sommets. Et donc, on aura, alors après, bear market, est-ce qu'il sera aussi long que ce qu'on a pu avoir en 2021, 2022, jusqu'à 2023, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, tu revivras bien sûr des drawdowns importants. C'est une évidence.
Et que ça soit pour les marchés tradis qui, en ce moment, pour le S&P et le Nasdaq, donc, sont sur des nouveaux ATH, que pour le Bitcoin qui lui-même, bah, du coup, a fait un nouvel ATH récent, tu vois ça comment pour les prochains trimestres ou semestres, sans se lancer dans des prédictions ou des boules de cristal, bien entendu, mais est-ce que tu penses que bah, justement, ça pourrait être un dernier semestre là, 2025, enfin un second semestre, parce qu'il n'y en a pas 36 forcément, qui serait plutôt positif, etc. Et en fonction de comment va se passer justement cette transition au niveau de la Fed, est-ce que Powell reste? Est-ce qu'il baisse les taux? Est-ce qu'il baisse pas les taux? Est-ce que l'inflation repart? Est-ce qu'il vire Powell ou Powell finit par démissionner sous la pression? On n'aurait pas par la suite une transition comme ça à 2026 qui serait un peu plus chahutée quelque part?
Bah, si tu veux, alors... Je vais donner une réflexion très générale, parce qu'après on pourra entrer dans le détail, mais ça va, l'émission va durer jusqu'à midi, ce serait passionnant d'ailleurs, mais si tu veux, point de vue économique, t'as, pour moi actuellement, tu as trois gros sujets. Tu as le sujet géopolitique, donc le confirmé, les confirmés, puisqu'il y a Russie-Ukraine et le conflit israélo-palestinien, donc il y a deux conflits. Ensuite, tu as... tu as la problématique franco-française qui pour moi peut être un signe noir, clairement. Pour moi, la France peut être le signe noir des marchés financiers dans leur globalité, parce qu'après c'est un jeu de domino, hein. Donc quid de la suite pour la France, qui est un pays qui pour moi est dans une situation extrêmement périlleuse. Est-ce que le FMI va s'emparer du sujet rapidement? C'est possible. Il faut savoir que les agences de notation, certaines agences de notation ont refusé de noter la France les dernières échéances. On ne sait pas pourquoi. Moi, je pense qu'on sait pourquoi. Enfin, c'est parce qu'en fait, ils ont voulu dégrader encore et qu'on savait que ça aurait des conséquences immédiates et qu'en sous-marin, Emmanuel Macron a négocié avec les agences de notation de faire quelque chose. C'est pour ça qu'on a eu ce plan de François Bayrou, là, c'était mardi, je crois. Sauf que ben, ce plan est largement insuffisant. Je pense même qu'il ne sera même pas voté, en réalité. Je pense même que le gouvernement risque d'être censuré en réalité. Et donc, on va avoir les agences de notation qui vont arriver de mémoire. Alors, je ne sais plus dans quel ordre, c'est Standard & Poor's en premier, etc. Mais en gros, tu as trois grosses échéances. Tu as mi-septembre, mi-octobre et mi-novembre. Et là, à mon avis, je ne vois pas comment, si elles sont à peu près honnêtes, je ne vois pas comment on n'aurait pas une nouvelle dégradation de la France. La problématique, c'est que cette dégradation de la France, bien effectivement, viendrait... augmenter certainement les taux, donc derrière avoir des conséquences sur la dette, etc. Bref, tout ça peut avoir une espèce d'effet domino qui ferait que, ben effectivement, si tu veux, ça pourrait être grave pour tout le reste, quoi. Donc ça c'est un premier élément. Et puis le dernier élément, tu l'as dit, c'est Powell. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on a une problématique, c'est que les taux aux États-Unis sont encore très hauts. Et on est en taux réel positif, c'est-à-dire que là où tu as la majeure partie des banques centrales, notamment l'Europe, et on peut saluer, et moi je me suis fait engueuler pas mal chamailler quand Christine Lagarde, elle avait pivoté la première avant Jérôme Powell, fait historique, on se rappelle pas, puisque le temps est passé, mais pour la première fois de toute l'histoire, la banque centrale européenne a baissé les taux avant la banque centrale américaine, c'était jamais arrivé. Donc quand même, il faut saluer, après tout un tas de bêtises, notamment post-Covid, je dis Madame Lagarde, mais quand je dis Madame Lagarde, on comprend bien, c'est la Banque Centrale Européenne, notamment de ne pas avoir remonté les taux assez vite, etc., ce qui avait engendré beaucoup d'inflation, etc. Et bien, on peut saluer aussi, par contre, la réactivité de Madame Lagarde qui les a baissés assez rapidement. Et donc, tu as par exemple la banque, tu as en Suisse, par exemple, les taux sont à zéro. Donc on est revenu à ce qui s'était passé avant le Covid, mais même pour certaines banques centrales, on est revenu même plus bas que avant le Covid. Donc, c'est absolument incroyable. Et tout ça pour dire que, par contre, aux États-Unis, ce n'est pas le cas. On est toujours en taux réel positif. Donc, potentiellement, on est sur une politique qui n'est pas accommodante, tout simplement, hein, pour l'économie américaine. Ce qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'en fait on mesure quelque part, et c'est un tort, on mesure le cœur de l'activité économique américaine par les 7 magnifiques, et on nous dit bah, finalement les 7 magnifiques, tout va bien, regardez, Nvidia, tout ça, tout va bien, mais c'est des boîtes qui sont noyées de cash, donc elles, à la limite, les taux, elles s'en foutent un petit peu. Par contre, lorsque vous regardez par exemple le Russell 2000, l'indice donc des petites capitalisations américaines qui montre vraiment finalement dans quel état est la microéconomie entre guillemets américaine, ben vous apercevez qu'il y a plus de 40% des entreprises qui font pas de bénéfices dans le Russell 2000, ce qui est absolument considérable, et c'est parmi les plus hauts historiques. Donc ça peut être inquiétant. Et donc voilà, et donc en fait si vous voulez, si tu veux, tu as à la fois Trump qui dit à Powell, maintenant ça suffit, il faut que tu baisses les taux parce que on a notre microéconomie américaine qui est en train de souffrir. Powell qui lui ne veut pas parce que il te dit oui mais bon d'un autre côté toi ta politique elle part tellement dans tous les sens que moi j'ai pas de point de repère donc je prends pas le risque de baisser les taux et potentiellement d'avoir des rebonds de l'inflation et potentiellement derrière de devoir les relever ce qui serait vraiment une catastrophe pour les marchés. Voilà, et après il y a cette guerre aussi, c'est-à-dire qu'il y a personne qui en parle de ça, mais en fait ce que beaucoup ne comprennent pas par rapport aux droits de douane, c'est que l'impôt aux États-Unis, l'impôt société, elle est environ de 30%. Bon, à peu près tous les pays occidentaux, c'est à peu près comme ça, à peu près 30%. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les 7 magnifiques? C'est que tu as la plupart des 7 magnifiques qui ont dégagé leurs sièges sociaux des États-Unis pour le mettre où? Pour le mettre en Irlande. Pour la plupart. Et donc en Irlande, ils payent un impôt société qui est de l'ordre de 3 à 5%. Et donc Trump, en fait, veut, par les droits de douane, dire aux grandes capitalisations américaines, les amis, soit vous revenez aux États-Unis, soit, et vous payez l'impôt américain, ce qui serait légitime d'ailleurs, les entreprises sont tellement riches qu'elles pourraient le payer largement, soit ben, vous allez payer des droits de douane à hauteur de l'impôt américain. Donc, on dit souvent, et quelque part, je comprends pas pourquoi les médias ne s'emparent pas aussi de ça. C'est-à-dire qu'on dit que Trump, finalement, par les droits de douane, s'attaque au monde entier, mais en réalité, il s'attaque surtout aux grandes capitalisations américaines qui ne sont pas situées sur le sol américain. Et donc, il veut récupérer de l'argent là-dessus. Et via cette économie d'argent, ce qu'il aimerait même à terme, pour moi, ce ne sera pas possible pour différentes raisons, mais ce qu'il aimerait à terme, c'est baisser fortement, voire même supprimer l'impôt sur le revenu américain. C'est-à-dire qu'avec l'argent qui serait rapatrié par les GAFAM, voilà. Mais aussi, la problématique, c'est que si ces GAFAM, c'est pour ça que c'est tout ça, à chaque fois, on s'aperçoit qu'à chaque fois que tu tires un fil, ben, t'as un autre à côté qui bouge, c'est que si tu vas prélever 30% d'impôts ou de droits de douane sur les GAFAM, la rentabilité de celle-ci va forcément mathématiquement baisser. Et donc, il y aura deux solutions. Soit elles impacteront le consommateur. Et là, si elles impactent le consommateur en montant les prix, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va tuer la demande. Parce que pour moi, les droits de douane sont... Tout le monde dit les droits de douane, c'est inflationniste. C'est-à-dire que si Trump impose des droits de douane, les prix vont naturellement monter. Alors, je vais y répondre oui, mais à très court terme. C'est ce que j'appelle de l'inflation de papier. Parce que si demain, tu augmentes tous les iPhones de 30%, ben, la demande va fortement baisser, en fait. Donc... pour moi, l'inflation, si tu veux, pour les droits de douane, elle ne sera pas si énorme que ça si vraiment elle a lieu. Moi, je pense que quelque part, Trump est en train de tester les GAFAM et voir si à un moment donné, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, et pour moi, pour lui, actuellement, c'est un échec. C'est pour ça qu'il est de plus en plus au pied du mur. Pour le moment, moi, je pense que ce qu'il espérait, c'est qu'il ait une entrée en négociation avec ses GAFAM et qui s'arrange pour dire, bon, écoutez, vous revenez sur le sol américain, et on vous met pas 30%, mais on vous met, je te dis une bêtise, on vous met 15 ou on vous met 20, comme ça, tout le monde est content, nous, on récupère des sous, vous revenez sur le sol américain, etc. Sauf qu'en fait, elles sont tellement puissantes aujourd'hui qu'elles en ont rien à foutre, et qu'elles lui disent, ben non, mon coco, tu veux imposer les droits de douane, ben vas-y. Donc voilà, moi, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on dit sur la fameuse, on pense, alors, il y a une part de vrai aussi, hein, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que le Trump est la caricature des Américains, et un Américain, ce qu'il aime avant tout, c'est l'Amérique et les autres Américains. Donc, il est aussi en lutte avec tous les autres pays autour, hein, bien sûr, hein. Mais malgré tout, pour moi, il y a ce sujet-là des GAFAM qui est très important. Donc voilà. Et donc, pour revenir à ta question initiale, c'est du coup... Ben, Quel est le scénario privilégié? Moi, je pense qu'on est dans un scénario comme c'est arrivé deux, trois fois, je vais essayer de chercher le graphique sur une de mes... sur un de mes serveurs là, mais je pense qu'on est dans un marché qui en fait est en train de construire des gros ranges sur les indices américains, et je pense qu'en fait le V bottom que l'on a n'est que le départ d'une grande structure qui va durer des mois ou des années. Je pense que tout le monde s'est accumulé sur les ETF, etc., ce qui est une bonne chose parce qu'encore une fois ça pousse les gens à investir, et de toute façon bon, on voit bien que le modèle présenté par nos élites, il est plus viable, et que voilà, à un moment donné, il faut se faire sa propre retraite, etc. Donc ça, c'est très bien. Mais je pense que là, on va rentrer peut-être vers une phase de digestion. Alors, on peut par intermittence faire des nouveaux plus hauts, et puis ensuite rebaisser, revenir sur des bas de range, remonter, etc. Je pense que là, on va tracer des grandes figures de congestion qui vont durer des mois, voire peut-être même des années. Et je pense que ça ne veut pas dire que la bourse c'est mort ou que justement les cryptos c'est mort. Au contraire, justement, je pense que ça peut profiter justement au marché des cryptos, parce que justement, peut-être que ce marché tradit où il y a beaucoup de gens qui ont investi sur des ETF, quand je dis des ETF, surtout des ETF, des trackers S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, etc. Je pense que ben, voyant pendant un an, deux ans, trois ans que leur argent ne fait pas grand-chose, peut-être qu'ils vont se dire ben, du coup, il faut que je diversifie. Et dans la diversification, pour moi, inévitablement, et c'est une bonne chose, je pense qu'il y a évidemment le marché de l'or, de l'argent, et évidemment le marché des crypto-monnaies. Donc, ça peut profiter encore au marché des crypto-monnaies. Donc voilà, moi, mon scénario principal, c'est que on aura des grandes phases de digestion qui vont être lentes, qui vont être longues pendant peut-être des mois et peut-être des années sur le marché tradit. Et ça peut éventuellement, on verra, après c'est les graphiques qui nous donneront de toute façon le tempo, hein, mais ça peut profiter pour moi, oui, au marché également des crypto-monnaies finalement. C'est toujours encore une fois une histoire de flux et de demande. C'est-à-dire que si tu as un petit peu moins de gens qui veulent acheter des ETF, il y a quand même de l'argent, donc il faut quand même l'investir. Et à un moment donné, ben, on va l'investir où ? Ben, on va l'investir sur des marchés qui sont un peu plus à la mode. Probablement les pays émergents aussi, et qu'on en a déjà beaucoup, beaucoup profité. La Chine qui a été boudée, qui s'est énormément bien reprise ces derniers mois. Là, depuis un an, c'est un des marchés les plus performants. Donc, ouais, et le stock picking, c'est-à-dire que pendant, ça fait 10 ans que tout le monde critique les gérants de fonds qui sous-performent les indices américains, qui sont nuls, qui comprennent rien, etc. Je pense que les gérants de fonds, d'ailleurs cette année, je ne sais pas si tu as regardé les gérants de fonds français, notamment sur Small Cap, j'ai regardé les performances là, sur le premier semestre, ils sont quasiment tous à plus de 20% de performance. Ils ont explosé la performance des indices traditionnels. Donc voilà, je pense qu'on est à l'aube de changement. On revient finalement en arrière, c'est-à-dire qu'on va revenir sur l'investisseur intelligent. Donc, quand je dis intelligent, je mets ça entre guillemets, hein, mais l'investisseur qui va aller chercher un petit peu plus d'originalité sur des cryptos qui se réveillent, sur des petites actions qui se réveillent, sur de la value, sur des pays également qui ont été un petit peu moins regardés. Je pense aussi, tu vois, par exemple, à des pays comme en Amérique du Sud, par exemple, tu vois. Il faut regarder aussi peut-être ce qui va se passer en Argentine ces prochains mois. Voilà, bref. Donc, je pense qu'on en est là. Je fais un petit peu long, mais je pense qu'on est sur un marché qui est dans cette phase de digestion qui va faire qu'il va y avoir beaucoup de nombreux arbitrages.
C'est super intéressant, et ça va tout à fait dans le sens de ce que disaient notamment les banques d'affaires américaines les plus grosses, comme BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan, etc., où ils disaient qu'après avoir eu une volatilité comme ça en dizaines de pourcents à deux chiffres depuis 2020, il fallait s'attendre à 5 ans miroir où on n'aurait plus que du 1 à 3% par an, et ça va tout à fait dans le sens de ce que tu viens de décrire. Hein.
Ouais, c'est ça. Et même sur 5 ans et même sur 10 ans. Je crois que on a dû voir le même graphe. Mais oui, les projections de, je le cherche, si je le trouve, je vais vous le montrer. Mais les projections sont très faibles en termes de performance sur les indices majeurs. Alors, encore une fois, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui confondent ETF et ETF S&P 500. Quand on dit ETF, vous pouvez être extrêmement bien diversifié avec deux ETF, hein. Vous pouvez investir d'ailleurs sur les cryptos avec des ETF, vous pouvez investir sur de l'or avec des ETF, sur les matières premières avec des ETF, sur des pays émergents, etc., avec des ETF. Donc c'est pas le sujet des ETF en fait qui est un sujet problématique, c'est sur quoi en fait, sur quels ETF vous allez miser. Voilà.
Donc, oui, puis le maître mot, si on regarde bien à la fin, mis à part si vraiment vous avez un domaine coup de cœur ou dans lequel vous voulez absolument investir, le but c'est d'être diversifié pour justement pallier à tout ce qui pourrait se passer, que ça soit d'un point de vue géopolitique ou bon nombre d'autres choses. On voit à quel point le monde va vite maintenant. Et juste pour revenir vite fait deux secondes au grand range dont tu parlais, là par exemple, on en avait eu un monstre dans les années 2000, de 2000 voilà. à 2007, puis de nouveau 2008, et ensuite on en sort qu'en 2013. On en avait eu un plus resserré ici, mais qui avait quand même duré un tout petit peu de 2014 à 2016. Là, pareil, on peut considérer ça plus ou moins comme un range jusqu'à ce que vraiment on fasse un peu le yo-yo de 2017 à 2020. Donc, en gros, ce que tu dis a tendance à se répéter assez souvent, finalement, et à prendre 2 ans, 3 ans, si ce n'est pas beaucoup plus pour les années 2000. Alors, est-ce que on en est déjà là à un 2000 likes, peut-être pas, mais une consolidation de 2-3 ans, comme tu viens de le dire, ça ne paraît pas si déconnant que ça.
Hein. Oui, tu en as eu alors, dans les années 30 ou 40, mais surtout, tu en as eu un gros aussi dans les années 70, je crois. J'essaye de remettre la main dessus, mais bon, voilà, et ça peut durer des années. Oui, ça peut durer des années, ça c'est sûr.
Ouais, 70, on est là. Bah, en gros, ouais, t'en as un qui est plutôt pas mal, peut-être ici. Je sais pas si.
Voilà, c'est ça. Juste après, là. Voilà, c'est ça. Juste après, là, tu vois, t'as une grosse. Voilà. C'est
bon,
ça.
Je vais mettre des traits droits parce que sinon, on va pas s'en sortir, mais un truc comme ça, à peu près. Ouais. Là et là.
Voilà.
Et là, on est de 60 à 80.
Voilà, ouais, c'est ça. C'est les 20 ans, les 20 ans perdus, entre guillemets, ouais. Donc, tu pourrais. Alors, véritablement perdu, parce qu'en plus, pour peu que tu aies un peu d'inflation, ça vient ruiner ton épargne. Donc.
C'est vachement intéressant de faire un peu d'archéologie parce qu'on a tendance, nous, en spéculateurs modernes, entre guillemets, à se dire justement cette fameuse phrase de cette fois sera différent. Et on voit que si oui, le monde est peut-être un peu différent aujourd'hui et comme certains le qualifient, en train de connaître une de ces prochaines révolutions industrielles avec l'intelligence artificielle, il faut quand même prendre en considération que les graphiques, de temps en temps, marquent des pauses et plutôt prolongées. Et le truc auquel je n'avais pas pensé, tu vois, et c'est toujours là où c'est super intéressant d'avoir des intervenants qui nous poussent justement à voir les choses un peu d'un pas de côté, comme je disais tout à l'heure, c'est est-ce que justement, si on a ce 1 à 3% de performance sur les indices pendant quelques années, les cryptos vont suivre au pas derrière et comme on disait tout à l'heure, tasser énormément la volatilité, notamment sur Bitcoin, ou est-ce que, comme tu le disais aussi, et ça peut tout aussi bien s'entendre et être une théorie valable, on ne va pas avoir un vase communicant, ok, les indices ne paient plus rien, 1 à 3, on bascule sur Bitcoin, on bascule sur d'autres altcoins ou des trucs comme ça, ce qui aurait le mérite de nouveau de les super alimenter quelque part et de leur redonner encore et toujours un peu plus de volatilité comme on peut s'y attendre d'habitude. Quoi. Donc moi, je suis plutôt partisan de me dire que quand on regarde sur une quinzaine d'années, en effet, que ça soit à la hausse ou à la baisse, la volatilité tend à se casser et je suppose que le jour où Bitcoin sera encore plus capitalisé que ce qu'il est aujourd'hui, on va finir tôt ou tard par avoir son propre cycle de plateau, exactement celui qu'on vient de vous décrire là pour les indices, de 2, 3 ans, peut-être 5 ans, où on aura l'impression qu'il ne se passe plus rien. Je dis un chiffre au pif, mais c'est pour vous imaginer le truc. Admettons qu'un jour, on a un Bitcoin à 500 000 $, pour donner un contre-rond médian et qui fait un peu rêver, eh bien, peut-être que pendant 5 ans, on ferait 500 à 600 000 ou 400 à 550 000 ou quelque chose dans ce style, avec beaucoup moins de volatilité que ce qu'on l'a connu depuis tout ce temps. Donc ça aussi, c'est théoriquement une des finalités vers lesquelles on se dirige inéluctablement.
C'est possible. Et tu as la même chose sur le marché tradit, c'est-à-dire que ça fait 10 ans, depuis 2008 en réalité, que tu as les small caps qui sous-performent très largement, c'est un plus bas historique d'ailleurs, américaine par rapport aux grandes capitalisations. Et on arrive sur des bas de cycle. Sur les bas de cycle. Parce que c'est toujours la même chose, si tu veux, tu peux pas. C'est-à-dire, les déséquilibres, si tu veux, en économie ou en bourse ou dans l'investissement, il y en a toujours. La psychologie de l'être humain est faite d'excès, contrebalancé par d'autres excès, etc. Mais à un moment donné ou à un autre, tu as besoin d'un rééquilibrage, tu as besoin d'un reset quelque part. Et ça, c'est pour moi, on est sur un. Alors, c'est très difficile de le timer, hein, on n'est pas à la semaine ou au mois près, mais pour moi, on est quand même sur des bas de cycle là-dessus, sur la performance des values, etc., des petites capitalisations par rapport aux grandes. Et donc, je pense que voilà, on peut avoir un nouveau cycle de surperformance. Et encore une fois, c'est très exactement ce qui se passe depuis. C'est très exactement ce qui se passe depuis 6 mois. Hein. Je vais essayer de retrouver. Si je vais pouvoir te le retrouver, la performance des gérants de fonds, tu sais, sur Small Cap, qui se sont fait découper ces dernières années. Hein. Vraiment découper. Hop, je vais te le retrouver. Voilà. Ah, je ne sais pas si ce sera assez gros ou pas. Là, tu as. Alors, attends, je ne sais pas si c'est assez gros. Bon, peu importe, ce n'est pas grave. Sinon, je vais vous le dire. Mais tu vois, là, tu as les fonds. Indépendance, Europe Small Cap. Indépendance, France Small Cap. Découverte, Small Euro. Gay-Lussac Micro Cap. Donc, c'est vraiment les petites capitalisations. Et ça fait 2-3 ans qu'elles sous-performent. Hein. Pas 2-3 ans, qu'est-ce que je dis? Alors, ça fait 2-3 ans qu'elles sous-performent nettement. Mais surtout, ça fait 10 ans qu'elles sous-performent nettement.
On peut comparer ça, si on fait une analogie un peu aux petites capitalisations, aux alt crypto, quoi.
Exactement. Exactement. Et du coup, regarde la performance 2025, donc sur le premier semestre de l'année 2025, voilà la performance. Plus 33, plus 39, plus 20, plus 17, plus 8, plus 19, plus 11, plus 20, plus 10, plus 12. Donc on a des small caps qui surperforment, quoi. Tu vois? Donc ça pour moi, c'est intéressant. Et effectivement, il n'est pas impossible. Parce que tu sais, là, avec le rebond qu'on a eu, sur le marché des cryptos et des alts, il y en a beaucoup là qui m'ont dit ouais, mais du coup on a loupé l'alt saison. Il y en a déjà qui disent qu'elle est déjà finie. Donc c'est possible, là, encore une fois, tout est possible. Mais quand on regarde le graphique de comparatif entre l'Ethereum et le Bitcoin, on a juste pour le moment fait un rebond technique, hein, c'est tout. Hein. Donc si vraiment on a une alt saison, une vraie, comme on a pu le voir par le passé, pour moi on n'est qu'au début. Hein. Pour moi, on est qu'au début. Hein.
C'est là où ça va être toute la gymnastique de ce cycle, c'est que aujourd'hui, vu comment s'est matérialisé ce cycle et la force et la dominance du Bitcoin au cours de 2024, slash mi-2025, il y a quasiment plus personne qui y croit à l'arrivée de l'altseason. Et finalement, ça accrédite aussi plutôt pas mal la thèse de ce rallye déjà de Ether, qui est le rallye, comme le disent les Anglais et les Américains, le plus détesté, puisque tout le monde était en train de dire que Ether était en train de crever. Et là, vraiment, Twitter, depuis des trimestres, tu lisais un peu les réseaux sociaux, c'était affreux. Tu n'avais plus du tout envie d'avoir même qu'une poussière d'Ether dans un portefeuille. C'était le truc à enlever de n'importe quel portefeuille crypto, si tu lisais les réseaux. Donc, je suis un peu mi-figue, mi-raisin vis-à-vis de ça parce que je t'avouerai que 2024, comment ça s'est matérialisé, m'a un peu
Ouais.
épuisé et m'a un peu rincé, tu vois. Et je préfère avancer un pas devant l'autre et me dire, OK, comment ça pourrait se passer, entre guillemets, sur un scénario plutôt neutre. Après, est-ce qu'on aura les étoiles qui vont s'aligner en mode beaucoup de liquidités disponibles, beaucoup de prises de risques et un retour vraiment hyper spéculatif sur les altcoins, comme on a pu le voir en fin 2017, début 2018, puis par la suite fin 2020, début 2021, parce que le gros de l'altseason, il s'est plutôt fait au premier trimestre 2021. Et d'ailleurs, à cette époque, on avait fait un top altcoin fin 2020. On avait explosé les targets de tout ce qu'on pensait en objectif max en 15 jours des 15 premiers jours de janvier. Donc en gros, 15, en 15 jours, entre le 25 décembre 2020 et le 15 janvier 2021, on était déjà beaucoup plus loin que ce qu'on pensait faire sur toute l'année pour le marché crypto. Pour vous dire un peu comme c'est parti comme une fusée, le machin, ça avait aucun sens le premier trimestre 2021. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je me pose quand même pas mal de questions. Est-ce que Ether va réussir à transformer, à retourner à son ATH et ensuite le franchir et nous offrir le début de quelque chose pour une véritable bonne et due Altizen que tout le monde attend. Voilà, c'est un peu la problématique. J'en fais tout à fait partie et je pense que c'est un peu biaisé hein, de me dire qu'on en a suffisamment chié, pour parler pour le poliment, sur ce cycle crypto, pour faire attention du côté des alts à ne pas se dire que forcément, voilà, l'altseason est due, tu vois, mais tout en ayant aussi en tête que oui, quand elle arrive sur la terminaison du cycle de 4 ans, si tant est, il existe toujours, ce qui voudrait dire autour de cet automne 2025.
Moi, il y a... Alors, c'est rare que quelqu'un du marché traditionnel soit positif sur les cryptos. En général, c'est plutôt le contraire. Hein. Les gens qui font des actions, ils disent que les cryptos, ça vaut rien, et inversement. Mais moi, je fais peut-être partie des exceptions. Mais en fait, j'essaye de regarder mes graphes, en fait. Et je m'en remets toujours au graphe, c'est-à-dire à un moment donné, quel est le flux, quel est le momentum. Et lorsque je regarde, tu vois, tu me parlais d'Ethereum, lorsque je regarde Ethereum, pour moi, c'est un graphe qui est très propre, en fait. Et je vais même te dire, je vais même aller plus loin. Lorsque je regarde tous les graphiques, et même des altcoins, des projets pourris, tout ce que vous voulez, on peut en regarder 2-3 hein, qui sont quand même assez parlants. Moi, je vois quand même des choses qui sont pas anodines, qui sont en train de se passer. Quand je vois le graphique Ethereum, quand je vois que beaucoup nous disent que c'est la fin d'Ethereum, quand je vois le graphique, je me dis, moi, on parle pas de la même chose, en fait. Alors, évidemment, tout est possible, mais quand je vois ce graphique-là, c'est plus un graphique qui me porte à croire que ben là, effectivement, on va revenir. Là, ça va certainement bloquer, effectivement, on va avoir une prise de bénéfice, on va avoir... Mais si là, on arrive à s'installer et à congestionner, la probabilité qu'on casse par le haut, elle est forte. Quand je regarde des graphiques, je regardais tout à l'heure, je suis tombé sur quelqu'un qui disait que XRP, ça valait rien. Peut-être que ça vaut rien, enfin, je sais pas, moi. Mais moi, XRP, moi, j'en parlais déjà à la cassure des 68 centimes. Et déjà, il y avait beaucoup de gens ici, là, c'était là, beaucoup de gens qui disaient, d'ailleurs, tu vois, ce graphique, il ressemble comme deux gouttes d'eau, là, celui-là, là, ce pattern, il ressemble comme deux gouttes d'eau au graphique d'Ethereum, hein,
Ça, c'est du bon opium que tu es en train de nous donner, là.
J'essaye. Mais en fait, surtout, j'essaye d'être sincère et honnête, j'essaye d'être transparent et j'essaye surtout de retranscrire par des mots ce que je vois sur les graphiques. Et lorsque je parlais de XRP en disant, je ne sais pas ce qui va se passer sur XRP, c'était fin 2024, je ne sais pas ce qui se passe sur XRP, mais ce que je sais, c'est qu'on arrive au bout d'une figure qui a une énorme congestion et que si on arrive à casser, c'était les 60, tu vois, j'ai pas oublié, c'était les 67 centimes, les 68. Si on arrive à dépasser les 67 centimes, derrière, il peut y avoir une forte accélération. De toi à moi, je ne m'attendais pas à une telle accélération. Moi, j'ai toujours ma ligne, d'ailleurs, que j'ai acheté. Donc, je suis très content, mais je ne m'attendais pas à une telle accélération. Et là, quand je prends du recul sur XRP, non seulement je ne m'attendais pas à ça, mais en plus, ce que j'ai vu, c'est que, tu vois, comme je te disais sur Ethereum, on est arrivé sur une résistance, on a fait la prise de bénéfice, mais derrière, on a construit une figure. Tu vois, on a construit une figure, je vais zoomer, on a construit une grosse figure ici, et derrière, on a rebreaké. Et ce que je vois même en données mensuelles, c'est que ben, on est sur les ATH. On est sur les plus hauts et que ben, pour le moment, voilà, il y a cette phase de digestion. Et ce que je veux voir maintenant sur XRP, c'est est-ce qu'on va arriver à construire là-dedans ? C'est-à-dire, est-ce que les vendeurs qui vont vendre vont être contenus par les acheteurs qui, le moindre repli, veulent prendre part à la spéculation ? Donc, en gros, sur XRP, si tu vois quelques semaines de consolidation un petit peu à plat, ben, les probabilités après, et après, tout est possible. Quelqu'un me demandait quel était l'objectif de XRP. J'en ai pas, on est sur les plus hauts historiques. Il n'y a pas d'objectif. Tout est possible. Bitcoin, je sais pas à combien il avait démarré, Bitcoin, voilà. C'est pareil. Donc, tu fais des nouveaux plus hauts. Donc, c'est très difficile de savoir les objectifs. Mais quand je vois ce genre de graphique, c'est canon, quoi. Donc, voilà, XRP. Donc, ça valait rien, effectivement, à 68 centimes. Mais ceux qui ont acheté à 68 centimes, ben, aujourd'hui, ils ont fait x5. Donc, ça vaut rien, mais ils ont quand même fait x5, tu vois.
Ouais, puis c'est vrai que quand on voit ta figure là, d'un point de vue purement trading, il y avait un ratio risque-récompense où tu sais où tu mets ton stop qui est vraiment pas très loin du prix d'entrée. Et derrière, le upside est assez conséquent. C'est un peu ce que je m'étais dit, moi, à l'époque, quand Bitcoin était à 15 000 et que tout le monde disait qu'on allait à 10-12, je me suis dit, bah, OK, si on va à 10-12, pourquoi on commence pas à payer à 15? Enfin, tu vois, c'est en termes d'upside potentiel, c'était énorme.
C'est exactement la problématique que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre. Et on a le même problème sur les cryptos qu'on a en investissement de manière générale, sur, en bourse même, sur l'immobilier, etc. C'est avant, la problématique, c'est que les gens pensent que par l'analyse fondamentale ou par l'analyse technique, ou pour les deux, même associés, tu vas avoir la capacité de prédire l'avenir. Ce n'est pas possible. Enlevez-vous ça de la tête. Il n'est pas possible de savoir où sera XRP demain, après-demain, dans une semaine, dans 6 mois, dans 8 mois. Moi, ce que je veux savoir, c'est quand je vois une configuration, quel est mon ratio gain-risque? C'est-à-dire, si je mise maintenant sur XRP, combien je peux gagner versus combien je peux perdre? Et si je peux gagner 3 fois plus que je peux perdre, je considère que mon ratio gain-risque, il est bon, voire très bon. C'était le cas ici à 68 centimes avec une grosse réduction de volatilité. On savait que, on sait par définition que quand le marché réduit fortement sa volatilité, on sait que derrière il y a un mouvement directionnel puissant qui peut en sortir. On sait pas dans quel sens, mais on sait que si s'il sort, tu peux avoir effectivement, tu peux miser une bille et en récolter 3, 4, 5. Tu vois, c'est ça qui compte. Donc maintenant, tu vois, typiquement, moi j'ai toujours ma ligne XRP parce qu'effectivement j'ai acheté pas cher, donc je profite du flux et après j'accompagne. Maintenant, quelqu'un qui me dit est-ce que c'est le moment d'acheter du XRP, là par contre, le ratio gain risque ici il est pas bon. Est-ce que c'est le moment d'acheter du Bitcoin maintenant? Le ratio gain risque, c'est la même chose, il est pas bon. Voilà, pour moi, il est pas bon. Est-ce que c'est le moment d'acheter de l'Ethereum? Est-ce que ça peut aller plus haut? Oui, mais est-ce que le ratio gain risque est bon? Non. Après, tu peux avoir, alors je te les passe un peu au hasard, mais il y a des choses plus spéculatives qui peuvent, tu vois, par exemple, t'en as une Maker par exemple. Voilà, là tu es sur des choses qui sont en train de se construire, tu vois, avec des, il y a une belle réduction de volatilité et on est sur le potentiellement des je vais le mettre en hebdo, voilà, des constructions, tu vois, regarde la réduction de volatilité, je sais pas si ça va casser par le haut ou par le bas, j'en sais rien. J'aimerais pouvoir dire aux gens, je suis sûr que ça va casser par le haut, allez-y, vous allez faire, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que quand je vois des constructions comme ça, si Bitcoin continue de pousser, qu'Ethereum continue de pousser et que derrière il y a des flux qui viennent sur les alt, qui continuent de venir sur les alt, bah derrière ça, c'est le genre de config qui peut pousser. Voilà, ça est comme plein d'altcoins totalement bidons probablement. Tu vois, je parlais de Sushi par exemple, une crypto de merde très certainement, je veux bien le croire. Mais quand je vois ce flux baissier, ce gros marché baissier avec un truc qui a baissé de 96%, qui est resté dans un range immense de 4 ans et qui est en train sur le bas de range ici de voir la compression, c'est pas une petite compression, hein, la grosse, et qui est en train de donner une grosse bougie, ben je me dis tiens, peut-être qu'il se passe quelque chose. Voilà, tu as des trucs comme Cardano, tu vois, on arrive sur des fins de figure, on a il y en a plein.
En fait, c'est là où tu fais s'affronter deux mondes chez les crypto bros, c'est ceux qui ont spéculé à l'aveugle en effet sur justement les projets que tu viens de montrer, voire les dino coins, et qui sont là pour une performance, et ceux qui vont vouloir investir sur du fondamental mais surtout pas prendre en considération quoi que ce soit d'autre, en se disant bah, ce truc c'est une coquille vide, ce truc ça sert à rien, etc. Alors je suis pas en train de viser X ou Y, parce qu'après dans les commentaires voilà, il y a les pros et les contres à chaque fois, mais c'est vrai que il y a vraiment ce truc où bah, toi tu as une approche beaucoup plus pragmatique justement et à froid, et qui peut s'entendre et se comprendre. Et du côté des crypto bros entre guillemets, je sais pas comment on pourrait appeler la cryptosphère, il y en a beaucoup qui voilà vont préférer comme tu disais tout à l'heure, aller sur un Ether plutôt que sur un ADA Cardano ou un XRP ou... Mais par contre, là où c'est vraiment le plus intéressant, ta démonstration, c'est de tout simplement bien mesurer à chaque fois quel va être le risque-récompense en fonction de ce que vous avez sous les yeux, tout simplement. C'est la seule chose à en retenir.
Mélanger les deux, c'est-à-dire que moi, déjà, premièrement, je respecte tout le monde, je respecte les avis de tout le monde, et même, je vais même te dire, aller plus loin, tu me connais un petit peu, j'adore les débats, j'adore discuter avec des gens qui ont des avis opposés au mien, à condition que les échanges se fassent toujours dans le respect. Mais t'apprends toujours quelqu'un qui a un avis opposé au tien, à partir du moment, encore une fois, où l'échange est constructif. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui disent, il y a que le fondamental qui compte, je vais leur répondre la même chose que ce que je dis aux gens qui me disent ça sur le marché des actions, c'est pourquoi ne pas mélanger les deux alors? Dans ce cas-là, mélangez les deux. Si vous êtes convaincu que le fondamental, c'est primordial, je suis d'accord avec vous, je le respecte, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, associez aussi l'analyse technique. Et quand il y a analyse technique, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 en analyse technique pour pouvoir déterminer des ratios gain-risque. Je veux dire, bon, on voit bien sur Avalanche, par exemple, que ton ratio gain-risque, il est bien meilleur que... Je connais pas le projet Avalanche, certainement dans les commentaires, il y en a qui vont me dire c'est pourri, tout ça, j'en sais rien.
Plus non, importe. ça fait partie des bons élèves, on va dire, de ces dernières années. Bon, il y en a qui diront que, bon, au travers du temps, voilà, ça perd toujours un peu de sa superbe et tout. Mais sur 2021 et au cours du bear market, là, ça s'est plutôt pas mal tenu. Ouais.
Bon, et ben voilà, alors typiquement, tu vois, Avalanche, ben là, je sais pas encore une fois si Avalanche va déclencher quelque chose, mais ça fait partie des configurations qui peuvent avoir un super ratio gain sur risque. Voilà, après, t'en as des... La dernière fois, j'en regardais une, je la connaissais même pas, hein, donc j'imagine que c'est une grosse daube, mais c'était quoi? C'était, voilà, Internet Computer, là. Bon, voilà, c'est spéculé, ça doit être hyper spéculatif, j'imagine que c'est une coquille vide aussi. On nous le dira certainement dans les commentaires, mais quand je vois ce genre de choses, je me dis, purée, il y a... Voilà, si on arrive à breaker les $6.36, ben on peut rapidement aller aux 14, quoi, tu vois. Alors, sans pour autant retourner la tendance, etc. Mais tu vois, ces gros ranges, et regarde, je te les passe comme ça rapidement. J'en passe, j'ai fait une vidéo complète là-dessus, mais je t'en passe. Alors bon, là, pour le coup, FTX, c'est un peu un cas à part. Mais tu vois, regarde, il y a beaucoup de configurations comme ça qui sont en train, voilà, sur des gros ranges qui ont duré longtemps, sur les données hebdo, des gros ranges qui sont en train de se réveiller. Alors, il y en a qui ont de l'avance. Tu vois, Monero, typiquement, elle a fait ça. Monero, elle a été dans un grand range pendant longtemps. Tu vois, ça a duré de 2022 jusqu'à 2024, 2 ans et demi. Et puis derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, finalement, le range, on l'a cassé par le haut. On a fait le pullback et derrière, pouf, spéculation. Et là, pour moi, on est en train de digérer. On est en train, voilà, j'ai imaginé, on verra comment ça se matérialise. Hein, c'est les bougies, mais on est en train de digérer. On est en train, pour moi, de construire la configuration intermédiaire avant, je l'espère, de continuer à la hausse. Donc, il faut comprendre que, et ça, c'est tous les actifs qui sont constitués, configurés de la même manière, c'est qu'on parle souvent de tendance. On dit souvent, il y a des tendances haussières, il y a des tendances baissières, etc., etc., etc. Bon, c'est vrai, pourquoi pas. Mais surtout, un marché, il avance de deux manières. Retenez bien ça, si vous voulez retenir quelque chose de moi, retenez bien ça. Un graphique, il avance soit en consolidation, soit en expansion. C'est-à-dire que ce soit en tendance baissière ou en tendance haussière, vous avez l'expansion, la consolidation. L'expansion, la consolidation. En marché baissier, c'est la même chose d'ailleurs. Vous avez une tendance baissière, pardon. Une tendance baissière, la consolidation, expansion, consolidation. Alors après l'expansion, la consolidation, elle peut se faire dans des biseaux, elle peut se faire dans des ranges, elle peut se faire dans des biseaux ascendants, même des fois avant de casser par le haut, tout est possible. Mais ce qu'il vous faut faire, vous, en fait, lorsque vous êtes intéressé par un actif, c'est un, analyser la tendance. Par exemple, c'est une tendance haussière, une tendance baissière, mais surtout, dans quelle phase vous êtes? Est-ce que vous êtes sur une phase de congestion ou est-ce que vous êtes sur une phase d'expansion? Typiquement, je vous montre une différence.
Juste, je fais la petite parenthèse par rapport à Monero pour justement dans le sens de ce qu'on disait à l'instant entre le côté purement spéculatif et le fondamental. Monero est la tête de file des coins anonymes. Donc, en gros, aujourd'hui, en Europe, c'est dans le viseur top priorité des gouvernements et de MiCA et de toutes les réglementations qu'ils ont mises en place. À savoir que là, le XMR, depuis qu'il pump, en gros, qu'il est sorti de son range, c'est depuis qu'ils l'ont enlevé des échangeurs centralisés. En gros, la réglementation a dit à tous les échangeurs centralisés, on vous interdit de proposer le XMR, le Monero. Pourquoi? Puisque c'est une monnaie totalement anonyme. Je ne vais pas dire totalement intraçable, puisqu'il y a toujours des aficionados qui vont me dire non, c'est pas vrai. Mais bon, grosso merdo, ce qu'il faut en retenir, c'est que oui, Monero est une des problématiques par rapport aux différentes législations et réglementations en Europe. Et bizarrement, c'est à partir du moment où il y a eu moins de liquidités disponibles sur les marchés et notamment qu'il n'est plus sur les échangeurs centralisés qu'il s'est mis à pump comme un diable. Donc, tu vois, sur le côté technique, il est super parfait, comme tu viens de le montrer. Sur le côté fondamental, on ne peut pas le trader dans bon nombre d'endroits. Donc, ça, c'est un problème, par exemple.
OK. Donc, en tout cas, moi, encore une fois, je regarde les flux et je regarde la congestion là. Tu vois, là, typiquement, on est bien sur une phase de consolidation, de réduction de volatilité. Tu vois, je te prends, encore une fois, je reprends mon petit XRP. Si je le retrouve, je vais le retrouver, il est là. Voilà, Tu vois, encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 en analyse technique pour avoir un minimum de connaissances. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire du trading à haute dose pour juste comprendre ça, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est le message que je veux laisser passer. Vous voyez, par exemple, ici, là, on est sur une phase, on le voit bien, d'expansion. On voit, on a un graphique qui est rentré en exponentiel. Alors là, on ne s'en rend pas compte, mais on va s'en rendre compte plus si je zoome. Voilà. Là, vous étiez voilà, sur une phase d'expansion. Donc là, il y a trop de volatilité. Ce n'est pas intéressant de rentrer. Là, par contre, vous êtes sur une réduction de volatilité. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant. Ici, c'est la même chose. Là, vous êtes sur une grosse phase d'expansion. Donc là, c'est très dangereux d'entrer. Souvent, d'ailleurs, dans les phases d'expansion, vous avez beaucoup de volume. La plupart des bouquins de bourse vous diront, et c'est une erreur, je l'affirme, c'est une erreur, la plupart des gens vous diront, ou des traders, soi-disant, vous diront, il faut s'intéresser aux actions ou aux actifs lorsqu'il y a beaucoup de volume. En réalité, ce n'est pas le cas. Il faut faire très attention quand il y a beaucoup de volume. Je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous expliquer concrètement pourquoi. C'est la même chose pour des actions. Je vais prendre un exemple pour les actions, mais c'est la même chose pour des, j'imagine, des crypto-monnaies. Lorsque vous êtes gérant de fonds, vous avez beaucoup d'argent, vous devez investir sur une valeur, une petite valeur, sur laquelle il n'y a pas énormément de volume. Vous devez investir, je ne sais pas moi, 1, 2, 3 millions d'euros, on s'en fout. Et c'est une valeur sur laquelle il n'y a pas beaucoup de volume. Comment vous allez faire ? Est-ce que vous allez faire all-in, vous allez tout de suite rentrer 3 millions d'euros ou est-ce que vous allez rentrer petit à petit ? Évidemment, vous allez rentrer petit à petit parce que vous voulez pas, il n'y a pas beaucoup de volume et si vous rentrez trop fort, vous allez faire tout décaler. Donc, vous rentrez petit à petit, vous faites une phase d'accumulation. En revanche, quand vous avez cette phase d'expansion et que les volumes sont au plus haut et que tous les petits porteurs arrivent pour eux acheter des actions, pour le coup pour les actions ou potentiellement des cryptos, mais qu'est-ce qui se passe en général ? C'est que ces gros fonds, ils en profitent justement pour décharger, entre guillemets, parce qu'ils ont la contrepartie en face et ils sortent leurs actifs. Voilà. Donc, il faut faire très attention lorsqu'il y a beaucoup de volume et qu'on est sur des phases d'expansion parce que c'est là où, généralement, on a des retournements de marché. Ou en tout cas, c'est plus dangereux de rentrer. Là, vous voyez, pareil, grosse phase de congestion. On le voit, il y a des petites bougies, ça commence à se réduire, on est des bouts de figure. C'est là où c'est intéressant. Voilà. C'est là où vous avez de l'intérêt pour rentrer.
Pour transcrire ce que tu viens de montrer dans un cas pratique direct là, vis-à-vis de XRP, typiquement, on devra attendre sur Ether le même type de consolidation vu qu'on est en train justement de faire les fameuses bougies verticales et on va arriver vers la zone de polarité des 4000 rapidement. Donc, potentiellement, exactement ce que tu venais de montrer là sur XRP, un petit flag ou une petite consolidation à plat à venir du côté de Ether, quoi.
Exactement. Si vous voulez acheter de l'Ethereum, et que vous cherchiez à un moment donné un setup, ben en gros, il faut attendre ce genre de choses. Voilà. Il faut attendre que Ethereum. Je dis toujours, il y a beaucoup de gens qui disent j'ai investi sur tel ou tel actif. C'est vrai sur les actions, je parle beaucoup des actions là pour le coup, qui disent j'ai acheté telle action, mais ça fait un mois que ça fait rien. Donc je sors. C'est surtout pas. C'est quand ça fait rien qu'il faut s'intéresser à un actif. Parce que ça veut dire que potentiellement, il y a des gens ou des fonds ou des qui accumulent. Donc là, ça peut être intéressant. On me demande Dodge, tu veux, on peut regarder Dodge. Typiquement, regarde. Là, on avait la même chose. Tu vois, grosse accumulation, hop. Voilà, grosse accumulation ici, on le voit. Ça a bien compressé ici. Et derrière, pouf, on a la petite bougie. Donc là, on est sur un très gros niveau de résistance. Ce qui serait top pour Dodge, c'est qu'en fait, on fasse la petite prise de bénéfice et que, voilà, là, on s'installe là-dedans. Une belle congestion des familles. Et derrière, on break, tu vois. Quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. C'est ce genre de choses qu'il faut chercher, ce genre de phase qu'il faut chercher, tu vois. Là aussi, on en a vu une très, très belle. Très, très belle congestion. Voilà, moi, c'est ça que je cherche sur les actions, sur les actifs. C'est ces phases-là. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça m'intéresse. Alors, ça arrive rarement. Hein. C'est pas tous les jours qu'on a ça. Hein. C'est
sûr. On peut remarquer que dès qu'au final, en hebdo, tu as 3, 4, 5 bougies bien verticales, bien droites, au final, tu peux considérer que déjà, ça commence à sentir un peu le pâté, quoi.
Ouais. Et regarde les volumes, ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, c'est illustré. Hein. Regarde, tu vois, on te dit, c'est quand il y a les gros volumes qu'il faut y aller. Regarde où ils sont, les gros volumes. Ils sont là. Ils sont là, ils sont là. On est d'accord. Tout le monde voit la même chose. Ben regardez. Regardez. Il faut y aller quand il y a des gros volumes ou il ne faut pas y aller ? t'as la réponse.
Ouais, ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et pendant les consolidations, d'ailleurs, on voit derrière, hein, immédiatement, les volumes sont vraiment sur le déclin.
Eh ben voilà. Regarde les trous. Hein. Mais ça, c'est vrai pour tous les actifs du monde. C'est vrai pour tous les actifs du monde. Attends, je vais te mettre en. Je vais mettre une petite flèche. Voilà. Ici. Hop là, pardon. Ici, il y en avait même une ici. Voilà. Et je te mets les flèches en parallèle. Regarde. Et regarde. Les moments où il y avait très peu de volume. Est-ce que c'était des moments intéressants pour investir? Je le mets en vert. Ou est-ce que ce n'était pas des moments intéressants pour investir? La réponse, elle est très claire. Voilà. La réponse, elle est très claire. Et c'est au moment où personne ne s'intéresse. Voilà. C'est au moment où personne ne s'intéresse au volume. C'est au moment où personne, où tout le monde te dit, ben regardez, il n'y a plus de volume, plus personne en veut, etc.
Ouais. Et en marge de l'analyse technique, c'est sur les réseaux sociaux le moment où vous n'entendez plus parler du tout du sujet en particulier, en général.
Exactement. Et Quentin nous dit, il faut observer les prix en même temps que les volumes. Absolument. Absolument. Absolument, Quentin, il a totalement raison. C'est les deux qui vont ensemble. Mais il ne faut pas croire que c'est parce qu'il y a des volumes qu'il faut y aller. Au contraire, vous en avez la preuve. Quand il y a les pics de volume, c'est très souvent, pas tout le temps, mais c'est très souvent. Ouais, le premier, je n'ai pas travaillé, hein, j'ai pris le. Mais c'est vrai sur tous les actifs du monde. C'est vrai sur tous les actifs du monde.
Ouais. Bah après, c'est la différence aussi de ceux qui défendent. Et personnellement, je ne suis pas de cette fibre-là. Tu sais, le trading directionnel, c'est-à-dire de renforcer sur un actif qui monte et qui est déjà bien directionnel, ce qui peut s'entendre. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont câblées pour ça. Personnellement, je préfère payer les replis comme bon nombre aussi d'autres personnes. Hein. Mais bon, après, les deux peuvent s'entendre, je pense. Hein.
Alors après, si tu veux payer dans des moments de hausse exponentielle, tu peux le faire, par exemple là. Si tu veux payer sur des moments de hausse exponentielle, tu peux, mais à ce moment-là, il te faut rentrer sur les petites unités de temps. C'est-à-dire, par exemple, tu vas rentrer sur du 4 heures et tu vas chercher des moments, voilà, sur du 4 heures, les moments de réduction de volatilité, comme ici. Là, il y en a un tout petit, il était difficile à prendre celui-là. Comme ici, voilà. Tu vois ? Donc après, tu zoomes en fait, c'est tout. Tu zoomes. Donc là, tu es en 4 heures. Et si en 4 heures, tu veux rentrer, pareil, tu vois, par exemple, là, tu veux rentrer, par exemple, ici, encore plus petit, là, je m'adresse au trader. Tu vois, tu te dis, là, c'est pas possible de rentrer. Ben oui, mais il te faut rentrer en 1 heure. Voilà, tu rentres en 1 heure. Et là, en 1 heure, potentiellement, tu vas avoir, voilà, tu vas zoomer et tu vas avoir des moments où tu as de la réduction de volatilité. Voilà. Ici. Voilà. Tout est en rapport en fait avec l'unité de temps que vous tradez. Moi j'ai fait de l'intraday toute ma vie. Maintenant en vieillissant, je suis fatigué. Donc j'en fais un petit peu moins, j'ai monté les unités de temps, maintenant je suis
plus suivi. On passe de l'heure à la semaine après.
Ah, puis j'ai mal aux yeux, honnêtement, j'ai les yeux flingués et tout. Alors, j'ai laissé beaucoup de mon physique à cause de l'intraday. Donc, maintenant, je fais un petit peu plus attention à moi. Voilà, là où je faisais 5 jours d'intraday sur les actions par semaine avant, maintenant, je fais un jour et demi, quoi. Et encore, c'est pénible, tu vois. Si je peux me barrer tôt, voilà. Donc, après, tu grossis les unités de temps, voilà. Après, tu t'essayes plutôt de faire du swing trading. Et même pour les cryptos, je fais plus d'intraday depuis bien longtemps déjà. Donc voilà, mais après il y a peut-être des jeunes, tu as peut-être un jeune public qui eux ils sont encore, et il faut passer sur cette phase là, hein. Il faut se frotter à l'intraday, hein. L'intraday c'est, on dit ouais c'est l'intraday, c'est que pour les traders tout ça, mais non, l'intraday ça vous fait progresser aussi en termes de psychologie, ça vous fait progresser par l'analyse technique, psychologie des foules, comment les cours réagissent, ça vous fait apprendre sur vous-même, comment vous réagissez, quelles sont vos émotions par rapport à des hausses, par rapport à des baisses, etc. Vous savez, le trading, c'est bon, il y a évidemment un aspect très négatif sur le trading. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu arnaqueurs un petit peu. Donc ça, je comprends. Et voilà, bien sûr. Mais moi, à titre perso, le trading m'a énormément appris sur moi-même déjà en tant qu'homme. Donc, voir comment je réagissais, etc. Et le trading m'a apporté sur mes investissements long terme. Parce que l'argent, le gros argent, vous allez le faire sur vos investissements long terme. Évidemment, à part quelques exceptions, mais la majeure partie d'entre vous qui vont gagner peut-être de l'argent, je vous le souhaite, dans les prochaines années grâce aux cryptos ou à d'autres investissements, vous allez le faire sur de l'investissement que vous allez garder longtemps. D'accord ? Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on est long terme, on n'est pas soumis aux émotions. C'est faux de croire ça. C'est pas parce que vous dites j'ai un horizon de temps de 10 ans que quand il y a une baisse de 30%, vous ressentez rien, vous ressentez pareil. Donc, il vous faut pour moi faire les deux, c'est-à-dire vous préparer aussi à ces émotions-là. Pour moi, l'intraday et le trading est une préparation mentale à l'argent que vous allez gagner sur du long terme. Et potentiellement, je vous le souhaite en tout cas, construire un patrimoine sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite.
Ouais. Et ce qui est tout à fait aussi intéressant dans cette réflexion-là, c'est de commencer petit avec des toutes petites sommes sur lesquelles vous n'allez pas avoir un impact colossal au début, que ça soit pour du trading court terme ou de l'investissement tout court, pour justement voir comment vous allez réagir le jour où le marché ne tourne pas de manière favorable. Et je pense que quand il y a eu le moins 20% bien tassé du côté des indices, là, vis-à-vis des droits de douane de Trump, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu paniqué côté TradFi. Donc, c'est un truc vraiment au long terme et comme tu disais, de se connaître psychologiquement. J'en profite, comme il y avait une ou deux demandes dans le chat, et c'est vrai que là, ces dernières semaines, on passait assez peu d'alt sur la chaîne parce que justement, c'était devenu un peu en mort cérébrale, en tout cas en apparence, parce que quand ça part, bah, ça part très vite. Il y avait Pot d'échappement qui demandait, peut-être d'abord tu nous parleras de Algorand, mais AAV, qui est un des chouchous de la chaîne, qui est le numéro 1 de la DeFi. Et donc, normalement, on devrait avoir une configuration qui n'est pas trop moche, mais qui est déjà peut-être un peu avancée comme Ether et sur lequel on attendra une consolidation potentiellement.
Ouais, bah tu m'as coupé l'arbre sur le pied. J'allais exactement dire ça. J'allais dire on est sur une configuration avancée. Ce que je remarque, mais je dis peut-être une bêtise parce qu'encore une fois, moi, je suis pas le grand spécialiste comme toi et comme certainement beaucoup d'auditeurs des cryptos. Moi, je spécialiste un petit peu analyse technique, donc je ne fais que constater des choses. Et ce que je constate, c'est qu'en fait, il y a souvent trois parties sur les altcoins. Vous avez trois catégories. Vous avez les alts qui sont en avance. Vous avez les alts qui sont dans le rythme et vous avez des alts qui sont en retard. Et pour le coup, AAV, elle est entre la première et la deuxième. Par exemple, Bitcoin est en avance, AAV est plutôt dans la deuxième, on va dire. Et donc, en effet, pour moi, là, il y a un objectif, c'est de venir ici, dans cette zone-là. Donc, on a déjà fait un bon bout de chemin. Là, par exemple, typiquement, est-ce que le ratio gain-risque sur AAV, il est bon? Pas forcément. Pas forcément. Il faudrait éventuellement qu'on vienne ici et qu'on s'installe là-dedans. Et qu'on fasse une bonne petite réduction de volatilité, comme je vous ai montré tout à l'heure, et éventuellement qu'on break. Et après, l'objectif suivant, c'est quoi? C'est de revenir ici. La zone au-dessus des 500, en plus, c'est une grosse zone de prix, donc au-dessus des 500, voilà. Par contre, si ça ne tient pas et que ça se replie, où est la zone d'achat sur repli? La zone d'achat sur repli, elle est là, à proximité du support, support oblique. Voilà. Bon, là, c'est en cas de scénario pessimiste, hein, bien sûr.
Et tu vois, par exemple, pour faire le boulot qu'on avait fait tout à l'heure vis-à-vis de XMR Monero, qui lui a été délisté justement parce que c'est un coin anonyme, aujourd'hui, pour AAV, sur la capitalisation du token AAV vis-à-vis, quand on compare de la TVL, c'est-à-dire l'argent qui est déposé sur le protocole de AAV, ben, y a beaucoup d'experts, comme tu dis. Après, je ne me considère pas expert ou quoi que ce soit. Et en DeFi, il y a des gens, notamment Marc de AAV, qui a été intervenant très régulièrement sur la chaîne. Et on vous prépare un nouveau format, d'ailleurs, avec Marc pour la rentrée. Donc, voilà. Mais en tout cas, par rapport à AAV en tant que tel, aujourd'hui, il y a beaucoup de spécialistes, entre guillemets, qui s'accordent à dire que la capitalisation de AAV n'est pas en adéquation avec ce qu'il détient dans son protocole. C'est-à-dire, c'est trop faible par rapport à ce que ça devrait être capitalisé quand à côté, en effet, on voit d'autres supercapitalisations en dizaines, en centaines de milliards qui ont parfois, d'un point de vue fondamental, cet aspect un peu coquille vide. Et c'est là où on rentre dans la psychologie pure de marché, des investisseurs, où tu as des projets qui sont assez extraordinaires sur le papier, mais qui ne vont pas forcément tracter des flux comme on aurait pu s'y attendre. Et c'est là où part le côté un peu, j'allais dire un peu bébête, mais ce n'est pas vraiment ça, mais les flux qui choisissent d'aller à des moments donnés, comme on l'a vu en 2020 quand il y a eu le printemps de DeFi, on a eu des multiples faramineux. AAV précédemment, le token s'appelait ETH Lind. Dans le bear market de 2018-2019, il a fait moins 99%. Donc AAV, avant de s'appeler AAV, il était mort sur le papier. Il renaît de ses cendres en 2020. Ils font le rebranding de ETH Lind vers AAV. ça a été un multiple en dizaines, en centaines de pourcents, enfin en centaines de fois, en centaines de X à AV. Donc là, aujourd'hui, la problématique du marché crypto, et notamment avec un Bitcoin trop fort depuis 2024, c'est quelle part va allouer les flux et la prise de risque sur des alts et des gros dossiers comme AAV ou Chainlink que tu as passé tout à l'heure et qui est l'oracle, qui est un des projets les plus nécessaires à la blockchain et à la crypto, Chainlink. Et pourtant, ben, ces dernières années, on continue de casser la volatilité. On n'est jamais revenu à la volatilité de 2021. Donc voilà, il y a beaucoup de questionnements, tu vois, d'un point de vue fondamental.
Ben, quand tu me parles de Chainlink, là, moi, ce que je vois, c'est qu'il se passe quelque chose quand même.
Ouais, mais je veux dire, est-ce qu'en amplitude, au vu de comment se comporte le marché aujourd'hui avec un Bitcoin qui a fait un peu le trou noir, on a la force, tu vois, du côté des alts, de recouvrer des performances à la 2021? C'est là où nous, maintenant, on a été tellement traumatisés qu'on se dit que ça n'arrivera plus jamais, tu vois.
Moi, je pense que plus le Bitcoin va être stable dans les prochaines semaines, c'est-à-dire plus le Bitcoin va réduire sa volatilité et va se mettre en range, mieux ça sera pour les altcoins, mieux ce sera pour tout le reste du marché. Ce qu'il faut souhaiter, si vous avez des altcoins et des autres cryptos, c'est que le Bitcoin reste aux alentours de 120 000, fasse 115, 125 pendant un mois et demi, voire monte, mais tout petit peu par petit peu. Donc, pour moi, c'est ça. De toute façon, encore une fois, c'est les graphiques qui vous diront. Hein. Voilà, bon, quand tu mets des moyennes mobiles, moi, j'utilise beaucoup la moyenne mobile à 10 périodes. Ce qui est très intéressant, vous mettez par exemple en données mensuelles, vous regardez l'orientation de la moyenne mobile. Ça vous donne le trend. Voilà. Vous regardez si elle est haussière ou si elle est baissière. Vous voyez? Et donc, Chainlink, en mensuel, vous mettez sur les données mensuelles, ça vous donne la tendance de fond. Et Chainlink, ça fait 4 mois que la tendance, elle est haussière quand même. Donc, ça, c'est un signe positif. Tu vois? Ça, c'est un signe positif. De toute façon, les flux doivent toujours vous valider vos analyses. Vous pouvez être le meilleur fondamentaliste possible, que ce soit sur action ou sur crypto, c'est la même chose. Il y a trois choses qu'il faut savoir, c'est que avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Avoir raison trop tard, c'est avoir tort. Et avoir raison seul, c'est avoir tort aussi. Donc, en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, l'aspect timing est important. Et surtout, de toute façon, même si vous avez raison et que Chainlink est le projet du siècle, j'en sais rien, tant que vous n'avez pas les flux et cette moyenne mobile avec des gens qui viennent avec vous donner raison, ben, vous avez tort. Et je vois qu'on parle de Atom, elle a beaucoup souffert aussi. Mais tu vois là, ça fait un mois, il est en train de se... C'est le début, tu vois, là par contre, voilà, on est dans la troisième catégorie, Atom, pour moi, on est dans la catégorie des alts qui sont en retard. Elle est en retard par rapport aux autres.
Donc, le truc, c'est que tu vois, quand on voit un chart comme ça face à l'USD, si tu mets Atom contre le dollar, c'est dramatique. En fait, c'est là où nous, du côté du marché crypto, on est sans arrêt un peu tiraillé entre ces deux trucs. C'est OK, Atom au cycle précédent avait une énorme traction. Il y a une grosse galaxie de projets qui se sont construits dessus, de beaux airdrops, etc. Et là, sur ce cycle, ben, plutôt que d'avoir de l'Atom qui s'est laissé littéralement crever, il valait mieux tout juste avoir du Bitcoin, quoi. Et c'est là où c'est un peu con.
Pour le moment.
Pour le moment. On fera le point dans 6 mois, on verra s'il est parti à la cave ou s'il est parti sur la lune.
Moi, ce que je vois pour le moment, c'est, je redis ce que j'ai dit précédemment. Si on est factuel, soyons factuels, une seconde, sur Atom 100, encore une fois, essayez de prédire l'avenir parce que c'est impossible, je le répète, et un analyste technique qui vous dit que c'est possible avec l'analyste technique de prédire l'avenir, vous changez de chaîne. Vous allez voir ailleurs. C'est pas possible. Et je suis un passionné d'analyse technique, donc je peux vraiment le dire avec transparence. Mais ce que je vois, c'est que on a d'abord une moyenne mobile mensuelle qui est en train de se redresser. C'est un élément positif. On est effectivement dans une tendance baissière. Il n'y a pas de sujet. On est dans un biseau descendant. On a une grosse réduction de volatilité et les volumes. Regardez les volumes. Quasiment plus de volume. Donc, ce que je peux vous dire moi, par contre, avec pas mal de certitudes. Je ne sais pas si Atom va casser par le haut ou va casser par le bas. Mais quand je vois ce genre de configuration, je peux vous dire qu'il est probable, fortement probable, qu'on ait un mouvement directionnel dans peu de temps sur Atom. Dans peu de temps. Voilà. Et quelque chose d'assez élevé. Voilà. Parce que ce genre de phénomène-là, il ne peut pas durer 6 mois, quoi. Donc on peut avoir encore une ou deux bougies mensuelles supplémentaires. Mais après, il va falloir se décider. On va arriver au bout de la figure. Et il va falloir se décider. Donc, soit effectivement, Atom ben, cassera par le haut et construira une nouvelle réduction de volatilité et démarrera une nouvelle tendance. Soit effectivement, c'est la catastrophe. Et là, on repasse effectivement sous les deux euros et quelques. Et là, par contre, vous pouvez laisser tomber Atom. Là, ça va devenir très, 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 très compliqué.
Même quand on voit les corps de bougies là en mensuel, tu sais, où on a quatre bougies à la fin qui sont vraiment en mode toupie, on peut avoir une invalidation très très proche du cours actuel. Donc c'est sûr que d'un point de vue trade, c'est relativement lisible quoi.
Premier signal, si on dépasse les 5 dollars 50, tu dépasses les 5 dollars 50 et tu t'installes au-dessus, ça peut être pas mal. Mais effectivement, ça fait partie des plus faibles. Voilà. Donc, il va falloir de la spéculation au-dessus pour se déverser ensuite sur Atom, évidemment. Évidemment.
Ça aussi, c'est un truc qu'on se demande maintenant, justement, qu'il y a les ETF. Tu vois que pour certaines crypto-monnaies, est-ce qu'on aura cette rotation qui va venir comme on avait par le passé quand il n'y avait pas encore les ETF et que les flux venaient se disperser des grosses caps vers les mid-caps, vers les small-caps. C'est un truc qu'on n'a pas vraiment observé depuis 2024, bien que décembre 2024 nous ait donné un petit soubresaut, un petit espoir. Mais en gros, pour te la faire courte, les alts au niveau qu'ils étaient au printemps 2024, c'est-à-dire il y a un an et demi, bientôt, ils étaient moins hauts, malgré le semblant de micro-alt season qu'il y a eu en décembre, que ce qu'ils étaient en début d'année 2024. Donc même depuis là, depuis un an et demi, les alts étaient baissés, quoi, pour une majorité en tout cas.
Ah bah de toute façon, on ne parle pas. Moi, quand je regarde Atom, là, même si ça se passe bien, par exemple, même si on arrive à breaker les 5,50 $ et qu'on a à un moment donné un peu de spéculation, je ne suis pas en train de vous dire, je ne me permettrai pas déjà de vous dire, on va revenir toucher les 44. Hein. Donc déjà, si tu as un petit excès spéculatif, si déjà tu reviens dans cette première zone-là des 10 $, c'est déjà très bien. Si tu arrives même, allez, pourquoi pas, aux alentours des 14-15, c'est déjà très, très bien. Quoi. Après, il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses pour retourner la tendance. Hein, voilà.
Ouais. Et c'est là où finalement, tu vois, on a plutôt pas mal cadré de notre côté parce qu'on en parlait souvent et on se disait qu'est-ce que pourrait donner une alt season, entre guillemets, si l'ensemble des alts venait à se réveiller. Et j'en étais venu par différents calculs et méthodes de mesure aussi en regardant un peu les graphiques, etc., qu'en gros, tous ces alts feraient des fois 2 à fois 3, tu vois, à peu près. Là où en 2021, c'était des fois 10, fois 20 et tout ce qui allait bien. Donc, on reste malgré tout dans une volatilité qui, théoriquement, quand bien même on aurait une alt season et un break au nord, sera quand même assez contenu par rapport au passé. Mais bon, aujourd'hui, on parle de fois 2, fois 3 comme si c'était devenu la norme. Faut pas oublier que c'est toujours pas la norme hein, de rentrer fois 2, fois 3, fois 5 sur une performance en si peu de temps.
Bien sûr. Et dans les commentaires, tu vois, je trouve que c'est... Alors, c'est bien hein, d'expliquer, mais tu vois, je lis un peu, il y en a qui disent, oui, mais par exemple, Atom ne va pas monter parce qu'il y a ça ou parce qu'il y a ça. Tu vois, et je trouve que c'est dommage, en fait, de se passer de l'analyse des flux. C'est-à-dire que le fondamental n'explique pas tout, et même en bourse. Tu prends une action comme Blockchain Group. Blockchain Group, c'est quand tu vois la capitalisation par rapport à ce que ça vaut, c'est inexplicable.
Ouais.
Donc, et même des grosses, même Tesla. Même Tesla, c'est inexplicable. La valorisation de Tesla, tu prends du Palantir, c'est inexplicable. Pourtant, c'est une des plus belles capitalisations aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est que le fondamental, croire que le fondamental pour les cryptos, pour les actions, pour tout dans le monde, est la seule explication pour qu'un actif monte ou baisse, est une erreur fondamentale. Je prends souvent cet exemple. Vous avez beau avoir la plus belle maison du monde, au bord de la mer, avec tout en marbre et tout, si personne ne veut acheter votre maison potentiellement elle vaut zéro. Et inversement, vous pouvez avoir le studio le plus pourri avec 10 mètres carrés, etc., machin, tout en plastique. S'il est posé sur l'Arc de Triomphe, votre studio, il vaut une fortune. C'est la même chose pour tous les actifs du monde. Voilà. Toujours comprendre qu'il y a une loi qui est inévitable, c'est la loi de l'offre et de la demande. N'oublions pas que nous vivons dans un monde où l'argent magique existe encore. l'argent magique existe encore. On produit, on injecte des liquidités sans arrêt. Et donc, ces liquidités, il faut bien qu'elles s'investissent. Donc, dans un premier temps, vous avez raison de privilégier les dossiers les plus qualis, bien sûr. Mais une fois que ces dossiers qualis, ben, ils sont très bien valorisés, que fait le marché quand il reste encore des liquidités? Ben, il va regarder les dossiers un petit peu moins qualis. Voilà.
Ouais, et comme disait VM, pas le fondamental, juste l'intérêt et surtout le temps d'attention des réseaux sociaux qui est assez court en général, qui se focalise sur la dernière hype, qui fait monter certains dossiers et ensuite ça retombe tout aussi sec. Donc c'est aussi là où, par rapport à tout ce dont on discute depuis tout à l'heure, il faut bien scinder en deux sujets, entre l'investisseur long terme qui va choisir des très gros dossiers, voire le gros dossier qui est Bitcoin aujourd'hui, pour le conserver et l'accumuler sur des années, et ensuite le plus court-termiste qui va faire un peu plus de trading, notamment du côté des altcoins, pour potentiellement, en plus, pour les crypto-aficionados, renforcer leur position Bitcoin, pour accumuler au travers des alts un peu plus de capitaux pour avoir plus de BTC pour le garder justement pour du long terme. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'on aura traité de l'intégralité justement des possibilités que vous avez d'appréhender les différents marchés, dont le marché des cryptos, et ce qu'il vient de vous donner ici comme clé au travers de 5-10 altcoins. Vous pouvez le retranscrire à absolument tout derrière, que ça soit vos actions, que ça soit vos alts, et que ça soit la manière que vous avez justement de gérer à la fois votre court terme, mais aussi très différemment votre long terme en termes d'investisseurs. Et aujourd'hui, ce qu'on attendra donc pour la rentrée, je pense qu'on se fera un petit point en septembre, maximum octobre, c'est est-ce que on va avoir cette terminaison en mode alt season avec un Bitcoin qui peut-être serait venu chercher l'excès à 150 000. Certains parlent de 180 000. Là, pour l'instant, il a l'air de vouloir marquer une petite pause déjà autour de 120, ce qui est pas si mal. Et ensuite, on va regarder un peu comme le lait sur le feu, la Bitcoin dominance, pour voir en effet si on a des flux et des capitaux qui reviennent sur les alts, tout en ayant bien en tête qu'en effet, sur les alts en retard, comme Atom Cosmos, bah, peut-être c'est du x2, x3 à venir chercher si ça se passe bien, peut-être un petit peu plus si vraiment il y avait des gros capitaux et des flux qui venaient à se répandre. Et pour les alts de type Ether, ben voilà, on le voit aujourd'hui, on a un Ether à 3 500 $, zone dure entre 4 000 et 5 000 que constitue l'ancienne ATH, une extension de FIBO comme on l'avait vu dans les dernières émissions autour de 7 500, puis après on passe le cran supérieur autour de 10 000 et plus. Mais est-ce que Ether aura la force de venir chercher du 10 000 $ sur ce cycle? Là aussi, voilà, je reste assez dubitatif quant à la façon dont ça s'est passé justement depuis 2024. Et là, c'est le côté rationnel qui parle, mais comme tu viens de le démontrer à l'instant, hors fondamentaux, on peut très bien aussi parfois avoir des emballements qui sont complètement irrationnels, des capitalisations qui le deviennent tout autant. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir ce juste milieu entre le côté pragmatique, rationnel, je bosse un minimum mes fondamentaux, et aussi avoir toujours un œil sur les écrans, les graphiques, les volumes, pour corroborer ce qui est en train de se passer et pas se raconter de belles histoires sur lesquelles on nourrit un espoir au long terme qui finalement ne va pas du tout dans la bonne direction.
Tu l'as dit, il y a deux profils qui s'opposent souvent, c'est-à-dire le profil investisseur long terme et le profil spéculateur. Mais sauf erreur de ma part, je crois qu'il n'est pas interdit d'être les deux aussi. Il n'est pas interdit d'être les deux. Et je dirais même qu'ils sont souvent complémentaires, encore une fois. Donc voilà, c'est pas parce que vous investissez sur le long terme sur Bitcoin, par exemple, que vous n'avez pas le droit aussi d'avoir à côté un petit portefeuille pour vouer des décalages comme ça, pour vous tester, pour aussi sentir le marché, pour aussi plein de choses. Donc je sais qu'on est dans un monde où il faut toujours opposer toutes les catégories de personnes, mais on a le droit aussi d'avoir plusieurs étiquettes. Voilà.
Ça, puis comme tu dis, on a aussi le droit à l'erreur et de se tester soi-même sur différents modèles, quelque part, pour trouver son propre mode de fonctionnement. Puisque c'est un truc aussi qui est assez peu souvent discuté, mais il y a des choses qui n'iront pas à certains types de profils et de psychologie, notamment le court terme, le stress, de rester devant l'écran un peu à surveiller, de comprendre certaines choses. Et encore que, il y a pas mal de choses qui viennent avec le temps et l'expérience, et des profils qui seront au contraire beaucoup plus à l'aise. Et je pense que c'est l'immense majorité des gens avec du temps long, de l'investissement tranquille, du DCA, et voilà, de pas trop se prendre la tête justement sur les graphiques ou les fondamentaux et d'essayer de rester le plus loin possible du bruit des réseaux sociaux. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, et je pense que ça fera une bonne conclusion à cette émission de 1h40, on va essayer de ne pas faire non plus 2h, parce qu'après, je sais que du côté de YouTube, ça reste des formats qui sont quand même assez longs par la suite à explorer. Bien que bah, de plus en plus de gens nous suivent un peu en mode podcast, juste en écoutant et en x2 notamment, ce qui permet quand même voilà, de distribuer des émissions plus longues en moins de temps. Mais par rapport à tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, bah, le but, voilà, c'est premièrement de survivre sur les marchés, de ne pas faire n'importe quoi avec votre argent, de bien cloisonner si jamais vous sentez cette envie irrépressible d'aller faire du casino, eh bien, de bien cloisonner les 500 ou les 500 balles que vous allez mettre sur justement un shitcoin, comme on les appelle chez nous, pour spéculer un peu, voilà, pour avoir ce frisson-là. Et à côté, vous vous faites votre portefeuille long terme sur lequel vous allez justement vous projeter sur plusieurs années pour petit à petit, comme tu le disais là aussi à très juste titre, avoir une performance qui pour le gros de cette dernière se fera en années et pas en jours, bien entendu. On peut gagner au loto une fois comme ça par chance, mais sur le long terme, il y a assez peu de chances que ça se produise malgré tout. Donc, on peut toujours rêver, mais dans la finance, bah, c'est un peu l'intro hein, finalement. La boucle est bouclée. Le but, c'est de ne pas être exalté, c'est d'essayer de vraiment revenir au plus strict nécessaire, au basique, et de ne pas s'emballer quand les réseaux sociaux ont tendance à partir dans tous les sens, ce qui a tendance à faire perdre les pédales à bon nombre d'entre nous. Merci Tino d'avoir partagé le micro et de nous avoir apporté bon nombre de clés pour petit à petit avancer nous-mêmes dans nos réflexions et dans nos positions aussi. C'était très cool. On fait le point, rendez-vous est donné en septembre, maximum octobre, pour voir où nous en sommes. Et on refera ça d'ici la fin d'année pour voir un peu comment se sont déroulées justement ces charts à la Atom Cosmos, voir si jamais c'est parti, si c'est pas parti, demi-parti. Et on fera donc un peu le point pour étayer tout ce qu'on a pu vous dire aujourd'hui. Merci encore, c'était super cool. J'ai pas vu le temps passer. On vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve donc pour la quotidienne lundi. Merci à tous.
Merci à tous, au revoir.